on est avec des ordinateurs qui sont pas capables, donc pas capables de faire de beaucoup de décollage, donc c'est quasiment impossible à faire. Et ben les étudiants disent ok, on y va. Et donc ils bossent 2 ans, donc il y a à peu près 6-8 mois de montage de projet, de financement, taxes d'apprentissage, etc.
Là ouais. t'y étais ou pas encore?
Pas du tout.
Pas encore.
Moi je suis né en 83, donc j'avais 12 ans à l'époque, donc moi j'étais pas là quoi.
Bienvenue dans La Galère, le podcast qui raconte comment les entrepreneurs des plus belles startups se sont débrouillés pendant les tout premiers mois de leur aventure. On y parle des galères du début, de la débrouille, des petites astuces pour convaincre les premiers clients et de tous ces détails qui font la différence entre le succès et l'échec d'une startup. Je suis Michael Koenka, cofondateur de Start the Fuck Up, le studio d'innovation qui aide les entrepreneurs et les grands groupes à lancer des startups. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.stfu.pro. Si vous aimez ce qu'on fait, pensez à vous abonner à La Galère pour ne pas rater la sortie du prochain épisode et à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcast afin d'aider d'autres personnes à découvrir l'émission. Bonne écoute.
Bonjour et bienvenue dans La Galère. Je suis Michael Koenka et j'ai l'honneur, l'insigne honneur d'accueillir aujourd'hui JB Kempf, président de Videolan. Bonjour JB, comment ça va?
Salut, ça va bien et toi?
Ça va au top. Est-ce que tu pourrais donc te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas encore?
Donc, je m'appelle Jean-Baptiste Kempf, je suis un ingénieur, j'ai bientôt 40 ans, ça fait maintenant 17 ans que je gère un projet open source qui s'appelle Videolan, qui fait notamment VLC. Et j'ai créé beaucoup de boîtes dans la vidéo, avec plein de profils différents pour les entreprises.
Et donc VLC, en deux mots, qu'est-ce que c'est pour ceux qui connaîtraient pas?
Alors je sais pas, j'espère que quand même la plupart des gens qui écoutent
normalement,
connaissent.
Normalement, beaucoup de gens connaissent.
Mais ce que je dis, c'est que VLC, c'est un logiciel open source qui est le logiciel français le plus utilisé au monde et le moins rentable.
Très belle histoire, très belle présentation. Et tes boîtes actuellement, pour qu'on se rende compte un petit peu ce que c'est?
Alors je crois que je suis mandataire social sur 8 ou 9 entreprises.
Wow, ok.
Plus les boîtes où je suis advisory de start-up.
Bon bah en 1h20 j'espère qu'on aura le temps de rentrer dans toutes ces aventures, mais peut-être pas, peut-être qu'il faudra se reparler plus tard. On va démarrer par le commencement. JB, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment a démarré l'aventure Videolan? Toi t'étais étudiant, tu voulais faire de la start-up comme on dit, ou pas du tout?
Alors moi je vais vous raconter cette histoire, c'est une histoire qui est en fait complètement bizarre, parce qu'en fait il y a personne qui a cherché à faire Videolan ni VLC. L'histoire en fait elle commence un peu, enfin très très tôt, c'est dans les années 60. Dans les années 60, il y avait une école qui s'appelait l'École Centrale des Arts et Manufactures, qui était du côté de Gare de Lyon, qui délivrait à peu près 100 ingénieurs par an, et l'éducation nationale considère qu'en tant que grande école, c'était pas assez, il fallait plus d'ingénieurs pour la reconstruction. Et donc, ils décident de décaler cette école centrale et de la mettre au centre de la France, parce que c'était l'École Centrale, et donc à Clermont-Ferrand. Et résultat, les anciens élèves, ils disent ah, pas du tout, ça nous va pas du tout, et ils sont pas du tout contents, et donc ils font un truc qui existe pas en France, en tout cas ils achètent un terrain à côté de Châtenay-Malabry, à côté du parc de Sceaux, et ils disent à l'éducation nationale, écoutez, on vous a acheté un terrain, on va construire le campus, on va tout organiser, vous construisez juste le bâtiment des enseignements et nous on gère tout. Alors c'est assez bizarre, parce qu'en fait tu te retrouves avec une école publique qui était sur un terrain de fait privé, géré par une association, mais quand même un terrain privé et géré par un campus géré privé, quoi.
Privé par? Par les anciens...
Ouais, c'est ça, exactement, qui s'étaient mis en association pour créer ça.
D'accord, ok. Et là, tu parles bien de l'école connue sous le nom aujourd'hui de...
École Centrale Paris, maintenant doit s'appeler École Centrale Supélec.
D'accord, mais elle avait un fondement...
Voilà, et donc, en fait, donc c'est une école qui date de, je sais pas, du 19e siècle. Hein, donc ils arrivent, ils construisent ça, et en fait, ce qui se passe, c'est que tout est géré par les étudiants. Puisqu'en fait, le campus... En fait, tout ce qui se passe sur le campus est géré par les étudiants, parce que le campus, en fait, appartient aux anciens élèves. Et donc, tu as le bar, la cafette, l'organisation des soirées, mais aussi la bibliothèque, tout ce qui est gestion de téléphone, tout ce qui était la télé, la radio, enfin, vraiment, tout était géré.
L'infrastructure du campus, quoi.
Du campus, donc il y a des gens qui géraient vraiment les murs, quoi. Donc, il y avait des gens qui... Mais tous les services pour les étudiants étaient gérés par des étudiants. Bref.
Sympa. Ça a l'air sympa.
Alors, je vous inquiétez pas, je sens que j'en ai déjà perdu. Je parle de VLC, vous allez comprendre pourquoi. Et en fait, à cause de ça, dans les années 80, il y a des anciens élèves qui devaient bosser chez IBM qui disent, on va déployer un réseau informatique sur l'École Centrale Paris pour les étudiants. Pour plein de raisons, et notamment la La raison, c'est qu'en fait, les étudiants, ils étaient assez ouverts à faire ce qu'ils voulaient, parce qu'en fait, ils avaient le droit de faire pas mal de choses. Et déployer des réseaux informatiques sur 1500 étudiants, 1500 prises, c'était intéressant. Donc, ils déploient un réseau qui s'appelle de type Token Ring. Alors, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui nous écoute qui sait encore ce que c'est. Mais c'est des réseaux où, en fait, tu n'as pas de routeur. Mais en fait, tu fais une sorte de grande boucle. Et quand tu veux envoyer un message, en fait, tous les ordinateurs lisent le message, disent est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est pas pour moi, et le remettent sur le réseau.
Et ça marche. Les routeurs permettent d'avoir une espèce d'arborescence qui fait que le message est divisé, voilà, et orienté de la même manière automatiquement.
Pas là, du tout comme ça.
Tout le message transite par tout le monde.
Par tous les ordinateurs. Si vous étiez, s'il y a des vieux comme moi qui étaient sur des LAN réseaux, vous saviez quand on se mettait avec des câbles coax et au bout il fallait mettre un bouchon, c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Bref. Et c'est important parce que donc ça marche dans les années 80. De toute façon, tu sers Internet pour envoyer des mails et en faire des newsgroups. Hein, on est pré-web. Et donc
toi, t'étais
pas du tout. Hein, moi, je suis pas du tout.
Pas du tout. Pour l'instant, t'es voilà. Ok. Ah, mais c'est l'histoire.
Et on parle même pas de Videolan, hein. On parle même pas de VLC. Okay. Hein. Donc c'est cette association qui gérait ça, qui s'appelait VIA, comme vivre l'informatique autrement. Était donc l'association qui gérait ce réseau, le réseau des étudiants. Puisque évidemment, tout est géré par le campus, par les étudiants. Et donc, arrive début des années 90, arrive le web, 92, ouais. 93, et 94 arrivent les premiers jeux en réseau, Doom, puis les Duke Nukem, et etc. Et donc, les étudiants veulent jouer en réseau les uns contre les autres. Et là, le problème, c'est que t'as un réseau, en fait, qui est donc pas un réseau en étoile, qui est un réseau, en fait, en boucle. Et donc, plus tu mets d'ordinateur, plus tu augmentes la latence. Et surtout, l'ordinateur le plus lent ralentit tout le monde. Et qu'est-ce qui se passe quand t'as un shoot'em up ou n'importe quel jeu avec de la latence? Tu perds.
Tu lags et tu perds.
Et donc, les étudiants donc veulent un nouveau réseau. Et donc, vont voir l'école en disant, ouin, 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 on a besoin d'un nouveau réseau pour étudier.
Pour étudier.
Exactement. Et donc, et c'est là qu'arrive le coût absolument important et qui donc explique pourquoi j'avais besoin de ces histoires de campus privé et pourquoi c'est important. L'école, dans une mauvaise foi que seuls les Français sont capables de faire, leur dit, écoutez, on veut vraiment vous aider, mais légalement, on ne peut pas parce que vous comprenez bien, le campus nous appartient pas. Donc, c'est une façon assez polie de leur dire d'aller vous faire mettre, quoi.
Et, bien joué.
Mais pour pas être trop désagréable, ils disent allez discuter avec des partenaires de l'école, peut-être, en fait il y avait beaucoup de
IBM, qui veulent recruter des ingénieurs,
ouais voilà, etc., peut-être qu'ils veulent faire des expérimentations, grosso modo allez les voir, allez dégagez. Sauf que les étudiants qui sont là, ils y vont. Et donc, ils vont voir plusieurs personnes, notamment les gens de Bouygues qui ont construit les bâtiments de tout ce campus. Et donc, quand ils vont voir Bouygues, il y a des mecs de Bouygues qui disent, en fait, nous, TPS, TF1, etc., en fait, nous, on pense que le futur de la télévision, c'est le satellite, du numérique.
Ok. Alors,
en 94-95, c'est pas idiot comme remarque, ouais. Évidemment, non. Et se construit en fait une idée d'expérimentation qui est de, au lieu de mettre 1500 antennes satellites et puis les décodeurs, c'était des décodeurs, tu sais, qui faisaient 20 cm de haut, etc., qui coûtaient 1500 francs le décodeur. Et donc, plutôt que de dépenser 2000 francs, 3000 francs par élève, fois 1500, et puis tu sais bien que les étudiants vont, tu vois, c'est du matos
qui va avoir plus, qui est cassé.
Ouais, voilà, il va y avoir beaucoup de casse. Donc, ça fait 3 millions d'euros, enfin, de francs, pardon, à l'époque. Et donc, non. Et donc, il y a quelqu'un qui dit, en fait, achetez une grande antenne, et puis diffusez sur un réseau à 100 mégabits, et on vous paye votre nouveau réseau si vous êtes capable de faire cette expérimentation. Et ce projet s'appelle.
Quelqu'un chez Bouygues. Je dis ça.
Quelqu'un, je pense, qui était chez TF1 à l'époque, qui aujourd'hui de bosser chez Canal. Donc, et donc ce projet se lance, qui s'appelle projet Network 2000, donc avec un nouveau réseau et surtout une solution de diffusion du satellite, et surtout c'était de la science-fiction à l'époque. En 95, t'as donc des 486 DX66 et des Pentium 60 et des Pentium 90, peut-être et au moment de Windows 95 quand ça sort, c'est des Pentium 75 et 133 MHz, tu vois, t'es vraiment, donc faire du décodage vidéo en temps réel sur un ordi, c'est quasiment de la science-fiction.
Là, l'objectif, c'est d'avoir de la vidéo.
C'est ça. En fait, t'as un gros serveur qui prend la vidéo du satellite et qui l'envoie sur le réseau.
Pour la télé ou pourquoi là pour les
ouais, pour la télé.
Pour la télé, d'accord. Ouais, le but, c'est d'avoir la télé sur les ordinateurs partout dans le réseau.
Sans avoir à déployer 1500 décodeurs et 1500 antennes.
Donc c'était très lié à la télé, cette première expérimentation, quoi. Capter le flux télé.
C'est prendre le flux télé et l'envoyer sur IP.
Ouais, okay.
Aujourd'hui, c'est évident, mais là, on est 10 ans avant YouTube. On est avec des ordinateurs qui sont pas capables de faire beaucoup de décodage, donc c'est quasiment impossible à faire. Et ben les étudiants ils disent ok, on y va. Et donc ils bossent 2 ans, donc il y a à peu près 6-8 mois de montage de projet, de financement, taxes d'apprentissage, etc.
Là ouais. T'y étais ou pas encore?
Pas du tout,
pas encore.
Moi je suis né en 83, donc j'avais 12 ans à l'époque, donc moi j'étais pas là quoi. Et donc ça arrive ce projet Network 2000. C'est un projet, il y a une démo en 97, il y a une démo, le truc crash au bout de 40 secondes, donc c'est non. Pas grave, ils font la démo 30 secondes, ils ont un ordinateur en 96 qui est énorme, qui a bien 64 mégaoctets de RAM, alors que les ordinateurs normaux à l'époque en avaient 8 ou 16.
Wow.
Ouais, tu vois, c'était... Et donc, ouais. Et le projet aurait pu s'arrêter là, fin 96, début 97, aurait pu s'arrêter là, et puis voilà, c'était le projet. Ils avaient leur nouveau réseau qui était un réseau avec un cœur en ATM, enfin à 150 mégabits seconde. Et puis surtout, à un moment, se connecte le ArenaTer, donc à Internet, par une grosse fibre. Et donc les étudiants ont probablement, les étudiants de Centrale à ce moment-là ont probablement un des meilleurs réseaux d'étudiants au monde.
Ouais, ils l'avaient construit pour le satellite, ça, pour l'expérimentation, mais du coup ils avaient rénové tout leur réseau qui reliait les PC. Et du coup quand Internet est arrivé, là ils avaient un super.
Exactement.
Tout était connecté.
Donc ça c'est assez. Donc voilà, donc ça c'est le projet Network 2000. Et puis le projet aurait pu s'arrêter là. Et en 98, donc à peu près un an après. Il y a des étudiants qui reprennent le projet en se disant en fait ce projet il peut être réutilisable et on va donc faire une solution de streaming vidéo sur un réseau local. Alors déjà là c'est un peu moins de la science-fiction que quand ils avaient démarré et ils appellent ce projet vidéo sur un réseau local LAN. Et donc c'est comme ça.
Donc l'objectif était vraiment de pouvoir à partir d'un poste d'un des ordinateurs connectés au réseau qui a une vidéo en live ou enregistrée, l'envoyer, la streamer donc pour
exactement.
Pour
c'est reste, vraiment le début
très voilà. Innovant.
Et ça s'appelle VideoLAN. Et leur objectif c'est de devenir open source. Et dans VideoLAN, il y a un client, un serveur, des éléments actifs sur le réseau. Enfin, il y a beaucoup de programmes. Un de ces programmes s'appelle VideoLAN Client. Et puis bah c'est ce qui va devenir VLC.
Et c'est le player qui
à l'origine c'est le player
jouer la vidéo qui reçoit
effectivement du serveur.
C'est ça. Et l'idée des étudiants derrière quoi c'était quoi de faire un petit réseau local de télé.
Et bah ouais parce qu'en fait comme toutes les universités en fait t'avais vite 20 à 30% d'étrangers donc ils veulent leur télé un peu satellitaire. Puis bah il y a quand même beaucoup de choses sur le satellite quoi qui sont assez cool.
D'accord. Donc là c'était quand même relié au satellite l'idée d'avoir la.
Donc là on est toujours pareil hein, c'est toujours le satellite. T'as des serveurs.
Reprendre l'expérimentation qui marchait pas mais cette fois-ci la faire.
Elle marchait mais c'était une démo quoi. Donc là le faire bien. Et ça leur prend à peu près 2 ans et fin.
Tout ça gratuitement, on est d'accord. Hein, c'est les étudiants qui font ça sur leur temps libre.
Alors en fait, c'est un projet de deuxième année. Donc okay, c'est l'équivalent d'un projet de Master 1, quoi, où en fait t'avais 150 heures ou 180 heures libérées par l'école où t'es censé travailler sur
bien,
un projet.
Trop bien.
Donc ça avance, mais en 2001, ça passe en open source.
Donc l'open source, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce que ça veut dire, c'est. Très schématiquement, il y a plein de licences différentes, mais c'est quand tu crées un projet, le code est disponible en ligne, tu peux le lire, et après la propriété intellectuelle ou l'utilisation que tu peux, la propriété intellectuelle est bien au développeur, mais l'utilisation que tu peux en faire, suivant la licence, tu vas pouvoir l'utiliser pour toi, pour ton entreprise, de manière plus ou moins libre, voire même le forker, c'est-à-dire le prendre et le modifier, et rajouter des choses toi-même si tu veux modifier des choses, voire collaborer au projet initial de très loin, de partout dans le monde.
Alors donc ça c'était un objectif des étudiants. L'école voulait pas parce qu'ils voulaient
garder
la propriété intellectuelle pour pouvoir vendre la licence,
etc.
Au bout d'un moment ils comprennent que c'est pas possible et donc ça passe en open source en 2001. Et là en fait ce qui se passe c'est qu'il y a des gens, notamment un à l'université de Utrecht en Hollande, un mec en Angleterre qui était un Français porte le client sous Windows puis sous Mac.
Parce que le client n'était pas sous Windows à cette époque-là.
Non, c'était des trucs de Linuxien, donc c'était un mec sous Linux, un mec sous BIOS et un mec. Tu vois,
c'était
vraiment.
Linux, c'est le truc que les geeks utilisent grosso modo pour développer toutes sortes de logiciels informatiques plus rapidement. Et en fait, Windows développé sur Windows et Mac, Mac est sur Linux, mais développé sur Windows, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, quand t'es un développeur, tu commences pas par là, quoi.
Et donc voilà. Et surtout, il y a plein de gens qui se mettent à rajouter en fait des fonctionnalités, puisque ça sait lire des DVD très rapidement, puisqu'en fait c'est le même format quasiment que le satellite, et puis ensuite rajouter des DivX.
Les DivX, ouais.
Et là, le projet, en fait, commence à sortir pas mal des portes de l'école, et notamment pour une des fonctionnalités qui était assez cool, qui était que tu n'avais pas à installer des codecs pack. À l'époque, à chaque fois que tu téléchargeais des trucs illégalement, ce que personne d'entre vous n'a jamais fait parce que c'est vraiment très mal, tu devais télécharger des codecs pack parce que tu pouvais pas lire la vidéo au bon format. Et donc, à ce moment-là, il fallait revenir et retélécharger un codec pack. Ça marchait toujours pas. Tu en achetais installé un deuxième. Non seulement tu avais pris un virus, mais en plus, le premier codec pack qui se fait avec le deuxième, t'avais plus rien qui marche. VLC en fait arrive avec des codecs intégrés, donc soit ça marche, soit ça marche pas.
Pour revenir sur ce point-là, parce que bon, c'est un problème qui est considéré un peu comme résolu aujourd'hui, mais à l'époque, c'est pourquoi il y avait tous ces formats de codecs pour lire différentes vidéos.
Aujourd'hui, il y a toujours,
Tout ça. C'est vous qui l'avez résolu, en fait.
C'est juste que nous, on a résolu en disant, en fait, c'est VLC qui a changé le truc en disant, nous, on arrive avec tous les codecs et puis point barre.
Et ils étaient privés, ces codecs? Il y avait une notion de...
En fait, tous ces codecs sont propriétaires. La plupart ne sont... Il y en a plein qui sont pas documentés. Et donc, c'est du reverse engineering et de la réimplémentation de l'intégralité des codecs.
Ouais, c'est comme s'il y avait des codes secrets qui chiffraient plein de formats de vidéos. Et en gros, vous essayez de trouver la manière de hacker le code secret pour chacun des types et l'intégrer dans un logiciel open source pour rendre ça hyper simple pour l'utilisateur.
C'est exactement ça. Et donc, voilà. Et donc là, VLC commence à croître pas mal, mais toujours là en fait c'est VideoLAN client et puis à un moment ça devient VLC, en 2004 ça s'appelle VLC, mais donc en fait VLC c'est le client d'une solution qui était VideoLAN. VideoLAN c'est la continuité d'un projet qui était le projet Network 2000 dont le but c'était d'organiser, de donner une utilisation qui justifiait d'acheter un nouveau réseau local pour un campus qui était en token ring sur une association qui s'appelait Via Central Réseau. Et donc, en fait, tu vois, c'est... Donc déjà, il n'y a pas de créateur à VLC.
Il y a combien de personnes qui travaillaient dessus, en moyenne, là, du coup?
Ouais, 200. 30.
Hein, à travers le...
Alors, ça dépend. Dans la première phase, donc, c'est-à-dire de la création du projet jusqu'à jusqu'au moment où le projet sort de l'école, c'est-à-dire 2006-2007, t'en as une trentaine, une quarantaine.
Ouais, d'accord.
Donc, ça fait une trentaine, une quarantaine de développeurs de VLC, quoi. Donc, voilà. Et en fait, donc, t'as pas de créateur. Ça a été des étudiants qui ont commencé, qui ont continué le projet. Et personne s'est dit, du jour au lendemain, je vais créer VLC, ça va être un lecteur où il y aura tous les formats dedans. En fait, c'est une continuité d'évolution qui fait que... Donc maintenant, moi, où est-ce que j'arrive? Moi, j'arrive vachement tard. Moi, j'arrive en 2003, parce que moi, je rentre à Central en 2003 et je suis un des gars du réseau, justement, de Via Central Réseau. Je suis vice-président et de fait, c'est moi qui suis le président, de cette association. Et au début, moi, je m'occupe des serveurs de streaming vidéo du satellite pour les autres étudiants.
Donc, profil pur ingénieur, développeur informatique. C'était ça ta carrière?
En fait,
que tu voulais
pas
faire,
du tout, parce que moi, je voulais faire une école d'informatique, notamment EPITA. Et en fait, ça coûtait cher. Mon père m'a dit, écoute, fais une prépa parce que c'est gratuit. Et si jamais la prépa marche pas, on regardera comment on te finance une école d'ingé. Et l'école centrale, c'est une école qui est une école d'ingénieurs généralistes qui a très très peu d'informatique. Moi,
elle était très peu informatique aussi à cette époque, parce que maintenant elle est c'est un peu pas mal.
Non,
juste pas.
En fait, c'était Supélec qui avait un peu plus. Que Central Supélec. Supélec a une côté un peu électricité, électronique, un peu informatique. Mais Central, moi, j'ai eu aucun cours. Pas eu un cours d'informatique de ma vie.
D'accord,
en fait.
Ok. Donc l'association étudiante d'informatique, c'était là où tout le monde apprenait l'informatique pour ceux qui avaient envie d'y aller, quoi.
Et donc où j'ai fait du réseau, de l'administration de serveurs Linux, de l'administration Windows, etc. Et pour certains, un petit peu de code, et notamment de code autour de VLC. Voilà, donc moi j'arrive, moi je commence à contribuer sur VLC en 2005, enfin vraiment sur le code de VLC, parce qu'après je gérais d'autres trucs sur soit via, soit sur VideoLAN. Et puis à un moment, voilà, donc c'est ce que je fais. Et puis à un moment, en fait, on se retrouve pendant un de mes stages, fin 2006, où en fait on n'est plus que 2,5 sur le projet. Alors pourquoi? En fait, il y a plein de raisons. C'est qu'en fait, le projet, en fait, les étudiants, ils arrivent. D'abord, il y avait beaucoup de temps libre à Central. Et puis vers 2000, quand j'arrive, moi, en fait, il y a un changement de direction. Et déjà, ça commence à être un peu moins cool. Donc déjà, il y a beaucoup plus de travail à faire.
Pour les cours officiels.
Deuxième truc, c'est qu'en fait, le projet devient de plus en plus difficile. Les trucs faciles ont été faits, évidemment. Et donc à chaque fois, c'est pareil.
Ajoute des couches en informatique. Donc
à chaque fois, tu fais les tâches faciles, les tâches plus difficiles, tu y mets Voilà. Et donc les étudiants mettent plus de temps à
comprendre la complexité.
À comprendre
du projet,
voilà, exactement. Et donc en fait, un étudiant qui arrive en septembre pour son projet de deuxième année sur EVLC, bah en fait, il se met vraiment à coder à partir de mars. Et en fait, bah voilà, et le projet commence à grossir. Donc en fait, à un moment, donc c'est ce que j'ai fait entre 2006 et 2008. En fait, j'ai sorti le projet de l'école.
Ah ouais.
Et donc j'ai créé une association parce que j'ai vécu un an aux US, qui était mon volontariat international en administration. Et donc j'ai fait après mes études. Et donc j'ai créé l'association Videolan. Et j'ai récupéré les assets de propriété intellectuelle, de serveurs, etc. Et un petit peu d'argent, il n'y en avait pas beaucoup, pour créer une association.
C'était compliqué ça?
C'est en fait rétrospectivement moi sur le moment ça me semblait pas très compliqué.
OK.
Mais c'est vrai que en fait bah c'est tu te rends compte que ce move il est délirant et les gens s'en rendent pas compte parce que j'ai fait ça très smooth mais bon
fallait convaincre qui et...
pas mal de gens mais en fait bah surtout il fallait le faire. Il y avait beaucoup de travail à faire donc je m'en suis
administratif, le propriété intellectuelle,
administratif, contacter pas mal de gens à l'école, pas mal d'anciens élèves, mais surtout j'ai fait après des choses qui m'ont pris encore plus de temps. Okay. Donc en fait, rétrospectivement, ça me semblait, je sais pas, ça m'a pas, il y a aucun moment, enfin, je me suis dit ah ouais, ça c'est cool de faire ça. En fait, ça me semblait la suite logique. Donc c'est ce que j'ai fait.
Et le truc était déjà open source, donc c'était quand même assez plus déjà facile de sortir la propriété intellectuelle puisque
en particulier surtout qu'il y
avait plus à l'école quoi, il y avait plus
d'appartenance. Ouais, surtout il y a pas mal de gens où je leur ai dit bah écoutez, il y a plus personne qui travaille. Ouais.
En fait,
et donc là j'ai eu un travail en plus qui est vraiment pas marrant, qui a été de la ensuite, j'ai dû refabriquer la communauté. Notamment, je suis allé retrouver des étudiants avec des projets de master, avec des projets...
Tu l'as sorti de Central. Et après, ta vision, c'était de continuer en open source avec des étudiants. Encore.
Non, mais en fait, je suis allé voir les anciens élèves. Tiens, tu vois, par exemple, il y avait un développeur de ouf sur VLC qui bossait plus parce qu'il avait un ordinateur trop lent. Et c'était trop lent de compiler VLC. Donc, tu vois, je lui ai racheté un ordinateur.
Ouais,
tu vois, c'est des trucs comme ça. J'ai proposé des trucs à des étudiants qui étaient à des IUT, à Epitech. Il y a eu un gros truc autour d'Epitech. J'ai eu des étudiants à aux mines de Paris. Voilà, des petits projets pour un peu reconstruire la communauté. J'ai réutilisé le Google Summer of Code. Voilà, donc ça, c'est un travail que j'ai fait en partir de 2007, 2008, 2009.
C'est ce qu'on appelle l'évangélisation dans les communautés open source un petit peu.
Et pendant ce temps-là, en fait, VLC a commencé à vraiment grossir. Et on est passé de quelques centaines de milliers, voire quelques millions d'utilisateurs, à 10 millions, 50 millions, 100 millions, 100 millions de téléchargements. Ça se doit être en 2009. Et puis ensuite, bah, après tout le travail qui fait que, bah, je pense qu'en 2012, on a dû avoir 1 milliard de téléchargements et puis ça a continué comme ça. Et donc maintenant, c'est une association. Donc, c'est cette association Videolan dont je suis encore le président qui gère tout ça.
Et comment, dans cette phase initiale, donc toi là, t'étais étudiant, l'association, t'étais encore étudiant quand tu l'as sorti ou t'es devenu full-time, ça a été ton travail en fait? Et
alors, ça n'a jamais été mon travail.
Ça n'a jamais été ton travail.
L'association l'a jamais embauché qui que ce soit.
Elle n'a jamais embauché, ok.
Et l'association, elle est pauvre. Hein.
C'est ça, ouais. En fait, du coup, comment tu te rémunérais toi?
Bah, je me rémunérais en travaillant quoi.
En travaillant sur d'autres projets.
C'est ça, exactement.
C'était que du temps libre en fait, enfin libre.
C'était que du temps libre. Et donc ça va être une bonne transition vers la deuxième partie. En fait, donc moi je suis parti aux États-Unis. Donc j'ai fait deux stages parce que j'avais fait en même temps que Central, j'avais fait un master recherche et donc il fallait que je fasse un stage de recherche et un stage de Central. Ouais, ouais. Donc j'ai fait un stage dans le sud de Paris, j'en ai fait un autre à Grenoble. Et puis donc c'était la fin en fait de mes diplômes et je suis parti en volontariat international en administration. Donc je travaillais au consulat de France à San Francisco.
Sympa.
Et donc pendant un an, j'ai visité des startups et des labos de recherche. C'était juste génial.
Dans la Silicon Valley.
Et c'est là que j'ai rencontré les startups. Donc là, c'était en 2007 et 2008. Donc par exemple, je me souviens être allé dans le bureau de Twitter où ils étaient 40.
Début.
Ouais, je crois, un truc comme ça. J'ai un t-shirt qui m'a été donné par Jack où il y a écrit Wearing my Twitter shirt parce qu'à ce moment-là, c'était, tu sais, t'avais 100 caractères et c'était je vais faire pipi. Enfin, tu vois, c'était vraiment Twitter logique, c'était vraiment nul. Et je me souviens me dire à quoi ça sert. Et je me souviens dire à quoi ça sert. Bref, et donc là, c'est là où je fais de plus en plus de VLC, puisque 2005, 2006, 2007, là, je commençais à en faire vraiment pas mal. Et je bosse pour une startup qui s'appelait Andolist, qui est devenue Dacast, qui est une boîte qui a été qui est morte et qui est revivante et qui est remorte et qui est revivante, et qui était franco-américaine. Donc voilà, je commence un peu à bosser pour cette boîte en parallèle. Et puis je rentre en France fin 2008. Je suis en.
C'est quoi cette boîte? Tu faisais du code pour eux ou?
Ouais, plutôt de l'advisory, un peu technique. Parce que le PDG, il se rendait bien compte que son CTO était un peu bizarre, quoi.
Ok.
Et donc voilà, donc c'est ce que je fais. Et puis il y a deux trois autres boîtes, une autre qui s'appelait Dino aussi, une autre boîte qui est morte.
Des boîtes américaines. Ah, sympa d'avoir.
Ouais, mais tu sais, c'est ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on peut faire ça autour de VLC? Enfin, vraiment.
Ah, c'était des liens avec VLC.
Ah ouais, c'était déjà évidemment des liens sur VLC, quoi, parce que justement, ben, j'étais actif dans la communauté. Et donc voilà, je rentre en France et là, je pense que pendant 6 mois, je fais du VLC, du consulting pour des startups en vidéo. Et il y a une des startups qui s'appelait Fairplay Interactive qui me dit à qui je bosse et il me dit bah en fait viens bosser à plein temps, deviens CTO. Donc je deviens CTO d'une startup qui s'appelait Fairplay Interactive et je fais ça et puis le soir, bah, je bosse.
Quoi leur produit?
Donc c'était un produit assez rigolo, bien qui était en fait ce qui a devenu après dans YouTube, c'est-à-dire en fait tu relinéarisais du contenu de chaînes de télé. C'est-à-dire l'idée c'était plus personne va regarder la télé, mais et t'allais voir M6 et TF1, tu y mettais tout votre contenu, on va faire de la SVOD, donc de la VOD, mais sauf que basé sur de la recommandation assez simple, j'aime pas, on va refabriquer le flux linéaire d'une chaîne de télé. Donc, tu as l'expérience de la chaîne de télé.
Ah, quand tu dis flux linéaire, c'est pas au sens technique, c'est vraiment juste la programmation épisode.
En fait, c'était super bien. T'as une chaîne de musique, t'aimes pas la musique, tu fais next, mais t'appuies sur next, quoi. Et aujourd'hui, tu vois bien combien c'est chiant de choisir. Tu te retrouves sur tu allumes ton Netflix et tu passes 20 minutes à choisir tellement de trucs. Donc là, l'idée, c'était on choisit pour toi.
Ah, là, un fil algorithmique déjà au début avec
voilà. Maintenant c'est arrivé sur YouTube à la fin d'une vidéo, t'as la suivante qui arrive etc. Mais en tout cas là c'était pour aller voir des chaînes de télé pour faire un truc pour
les chaînes de télé, pour les TF1, VOD, des choses comme ça. Ok.
Ce qui a tué cette boîte, c'est que faut jamais travailler avec les gens du contenu parce que ils ont un temps de réaction nul, quoi. Le moindre projet avec TF1 ou Canal+, c'est 18 mois, 24 mois. Ouais. Et puis surtout, Netflix et tout ça, la SVOD, ça leur faisait pas du tout peur. Mais non, de toute façon, on a tellement de contenu, on est imbattable, etc. Donc bon, non, hein, en ce moment, ils sont vraiment en galère. Et puis surtout, je pense que plus personne en dessous de 40 ans regarde la télé.
Toi, tu étais conseiller technique de ces boîtes-là, donc très CTO, donc vraiment sur la partie technique, les codecs, les trucs comme ça, ou en fait, c'était plus de commencer à avoir un sens business plus global?
Non, là, c'est pur CTO. Moi, je fais que de la tech.
Que de la tech, ok.
Et voilà. Et donc, voilà, la boîte va pas très bien. Et puis en 2012, je commence à avoir vraiment de plus en plus de gens qui me demandent du consulting et de l'intégration ou des petits boulots autour de VLC. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que donc j'arrive dans une troisième phase pour le projet Videolan, c'est je crée une boîte de consulting, enfin une boîte à côté de VLC.
D'accord.
Et donc que je crée en début 2013, et c'est cette boîte qui s'appelle Videolabs qui va être mon activité principale sur les 10 dernières années.
D'accord. Et c'est quoi les partenariats que les boîtes peuvent faire donc avec VLC et te demandait, c'est quoi tes clients en fait avec
mes clients, ça
qu'est-ce
va.
Qu'est-ce qu'ils veulent développer?
Microsoft, parce qu'ils voulaient qu'on s'occupe de une fonctionnalité que je complètement débile dans Windows 8, Windows 10, etc. Donc, voulaient avoir un peu une démo, etc. Donc, tu leur demandes, enfin, tu vois, ils te payaient pour, parce que pour des raisons marketing, ils voulaient dire, bah, upgrader à Windows 8, upgrader à Windows 8.1, upgrader à Windows 10. Des gens comme Nvidia, ARM, pour que tu supportes bien leur matériel, parce que VLC devenait gros.
Il rémunère aussi en certaine manière la fondation pour dire nous on va sortir des nouveaux codecs ou des nouveaux systèmes. Maintenant que vous avez des milliards d'utilisateurs. Voilà.
Et moi je leur dis la fondation elle prend pas d'argent et il y a personne.
Ah, la fondation.
Etc.
Prenez pas. Mais, ouais, d'accord.
Et donc elle est parlée avec Videolabs et autour de Videolabs en fait j'employais des gens.
D'accord, ok.
Alors l'avantage c'est que si Videolabs meurt en fait tu mets pas en danger l'association et tu mets pas en danger VLC. C'est principalement la raison.
Videolabs est une société normale, c'est pas une association.
Videolab, c'est une SAS. Et donc voilà, et donc c'est comme ça que j'ai fait. Alors donc là, sans lever de fonds, donc c'est une boîte full bootstrap. La première année, on a fait 200 000 euros de chiffre. Puis après, on a fait 20% de croissance à peu près tous les ans pendant quelques années, jusqu'à arriver à peu près 1,8 million de chiffre d'affaires. Tu vois, c'est à peu près.
Ok.
Et alors là,
boîte de service, on est très spécialisé en fait. Service
ouais,
tech,
c'est très, ce que j'appelle de la
très spécialisé.
Ouais, de la haute joaillerie quoi.
Ouais, c'est ça. Vraiment, c'est vrai. Parce qu'on l'a pas dit, mais pour ceux qui connaîtraient pas ce monde-là du développement technique, on va sûrement en parler un peu, mais tout ce qui est flux vidéo, traitement de flux vidéo, algorithme de compression, optimisation de ces systèmes, c'est sujets techniques très complexes. Quoi. On n'est pas en train de développer juste un site web en HTML ou en CSS, technologie web. C'est des trucs un peu.
Ah ouais, compliqué. Même aujourd'hui, moi j'écris de l'assembleur. Enfin, tu vois,
ouais, voilà. L'assembleur, c'est le langage, si vous voulez, qui parle le plus proche des puces de l'ordinateur. Enfin,
je pense qu'il y a plus grand monde qui fait ça, quoi.
Ouais. À part vous.
Alors donc et pour justement un peu pour cette histoire de Videolabs, ce qui est intéressant, c'est en fait il y a plein de raisons pour lesquelles j'ai créé une société et pas une asso. Donc ma première idée, c'était de faire une société qui était la filiale de l'association.
Yes.
Ok. Parce qu'en fait, pourquoi j'ai créé la boîte, c'était qu'en fait déjà en fait commencer un peu les startups. Et quand moi j'étais à Centrale, les mecs qui étaient des cadors, c'était les mecs qui faisaient de l'open source.
Ah ouais, au niveau tech, ouais. Les cadors tech, ils faisaient
l'open source. Mais même, enfin les meilleurs. Ah ouais. De toute façon, il y avait un tiers de la promotion qui allait faire du conseil dans les boîtes de conseil horribles. Et puis ensuite, t'avais un peu de gens qui faisaient du bâtiment, un peu de gens qui faisaient de la recherche.
Ah oui, il y avait des gens en IT, quoi. Okay.
Il y avait quelques gens en IT, mais tu sais, c'était 2005-2006, tu vois, c'était pas... Mais il y avait quand même un peu... Avant. Et surtout, les mecs étaient les meilleurs, c'était les mecs qui faisaient l'open source. Post-bulle 2008, et puis le redémarrage de la tech en 2010, en 2011-2012, tout le monde veut faire... en tout cas, il y a beaucoup de gens qui veulent faire des startups. Et donc, je me retrouve à nouveau à devoir expliquer pourquoi c'est cool de faire de l'open source, alors qu'avant, j'en avais pas besoin de le faire. Et tout le monde veut faire des startups, veut être le prochain Uber de la farine ou le lacet connecté ou faire le prochain Flappy Bird. Mais c'est vrai, en fait, tu sors d'école, tout le monde veut faire ça. Et
je suis passé par là.
très peu voient un peu le côté qui, moi, est important pour moi d'aide à la société, de faire des trucs pour le bien commun, qui est quand même très fort sur VLC. Et donc voilà, donc déjà, je sens qu'on a du mal à renouveler. C'est un problème qui est...
La communauté. Ils partent faire autre chose.
Et puis, arrivent les iPhones, bon, au début c'est une blague, et puis ça devient de moins en moins une blague, il y a de plus en plus de contenu vidéo, et puis il y a les smart télé qui arrivent, et on se rend compte que pour développer là-dessus, c'est autrement plus coûteux que développer pour un ordi, quoi. Un ordi, t'es sur ton ordi, tu codes, tu parlais de Windows qui était un peu plus difficile, quand tu te mets à coder pour des app stores, déjà rien que faut rentrer dans les app stores, faut payer de l'argent, faut avoir il y a
des écosystèmes fermés,
débiles, déployer sur un truc sur Android, c'est infernal.
On a vécu les mêmes choses.
Et donc, en fait, les gens vont pas bosser sur VLC pour Android sur leur temps libre. Ils te disent pourquoi pas.
C'est pas fun.
Donc, je me dis, il faut que j'embauche des gens à avoir un truc professionnel. Donc, moi, je veux faire une boîte. Donc, là, vraiment, création boîte, qui soit une filiale de l'asso. Et les gens de l'asso, grosso, me disent d'aller me faire mettre. Sur le mode, mais tu comprends, qu'est-ce qui se passe dans 5 ans si la boîte ne fonctionne pas et qu'on n'a pas l'argent? En vrai, j'en sais rien, ça s'appelle entreprendre, allons-y. Donc finalement, ça c'était en 2011, finalement je le fais quand même fin 2012, donc début 2013, et je crée la boîte, et puis j'embauche les gens, et puis au début je me paye avec mon chômage.
Et de toute façon, là tu l'as créé à côté, tu l'as créé pas en...
Voilà, c'est une SAS, tout
ça. Et ça en fait, personne t'empêche de faire, puisque par nature, VLC est open source, donc n'importe qui peut créer des boîtes de conseil autour, ça c'est le modèle classique.
Enfin, exactement, c'est exactement. Et surtout, en fait, une des raisons de créer une SAS, c'est qu'en fait, je pouvais pas embaucher des gens avec l'asso. Enfin, je pouvais, mais c'était compliqué. En particulier parce qu'il y a cette histoire de fusible dont je te parlais. C'est-à-dire que l'intérêt, c'est que si la boîte meurt, tu mets pas en danger VLC. Mais aussi, en fait, surtout qu'en France, si tu veux avoir des subventions, c'est pas avec des assos.
Pour les subventions start-up, effectivement. Ouais. Maintenant, il y a une vague de start-up à impact qui ont des statuts un peu particuliers, associations, tout ça. Tu peux.
Ouais, mais moi, j'étais une start-up à impact il y a très longtemps.
Mais
en fait, grosso modo, tu vas voir le jeune entreprise innovant, l'essayer, la subvention, etc. Tout ça, ce sont des choses qui n'existent que et uniquement pour des entreprises. Donc, évidemment, donc moi, j'ai fait un truc qui s'appelait Paris. Enfin, tu vois, j'ai. Et alors là, moi, j'ai décidé parce que j'allais tout faire moi-même. C'est-à-dire que, en fait, j'aime pas demander à des gens des choses que je ne comprends pas. Donc, j'ai fait mes premières fiches de paye à la main. Je suis allé déposer mes statuts au tribunal de commerce à la main. Je me suis fait rejeter 3 fois leur putain de CERFA qui est toujours aussi catastrophique. On est 15 ans plus tard, c'est toujours aussi nul, quoi. C'est vraiment des...
Maintenant, il y a Legal Start, donc...
ouais, bah non, c'est hors de question. C'est-à-dire qu'en fait... Alors d'abord, en plus, je pense que c'est une très bonne formation de comprendre.
Ouais,
je vois aujourd'hui beaucoup trop je vais pas dire d'entrepreneurs, mais de start-upers. Ils ont aucune idée de ce qui... Enfin, tu vois, ils arrivent, ils vont Legal Start, ils ont un comptable qui leur fait tout, et ils ne comprennent pas ce que c'est une vie de boîte, et ils ne comprennent pas, ils ne pilotent pas une finance d'entreprise. Ça, c'est important. Aujourd'hui, évidemment, je ne le refais plus à chaque fois à la main. Mais le faire une fois, c'est hyper important parce qu'en fait, tu comprends. Et là, j'ai déposé mon dossier au CIR pour être jeune entreprise innovante. J'ai fait mon premier dossier de CIR à la main. J'ai fait mes premières fiches de paye à la main, etc. C'est important de comprendre parce qu'en fait aujourd'hui, enfin tu vois par exemple, j'ai encore des entrepreneurs qui ne savent pas lire une fiche de paye. C'est affligeant. Ah non mais c'est quoi TA, TB, TC de Arco Agirc? Ben en fait mec, c'est ça être entrepreneur. C'est il faut comprendre ça. Je te dis pas qu'il faut que tu le fasses à chaque fois parce que ça te prend du temps.
La partie business, il faut la comprendre un minimum.
C'est même pas de la business, c'est l'administration. Mais il faut faire gaffe parce qu'en fait, beaucoup de boîtes meurent avec des problématiques de trésorerie. Il y a beaucoup de boîtes de start-up qui meurent. Donc évidemment, le problème numéro 1, c'est le fight entre les fondateurs. Mais le problème numéro 2, c'est des problèmes de trésorerie. Et en fait, quand tu commences à faire, à parler avec des banques, etc., c'est compliqué. Et évidemment, aujourd'hui, il y a plein de gens, ils disent, c'est pas grave, je lève des fonds. Et puis, en fait, quand ils lèvent des fonds, en fait, ils vont directement à la phase levée de fonds. Et ça, c'est un peu dommage parce qu'en fait, finalement, tu ne comprends pas ces petits rouages. Et ces petits rouages, d'abord, je pense, changent pas mal la culture de la boîte. Et ça fait des boîtes qui sont plus agréables parce que t'as pas un chef qui n'a rien compris à ce qui se passe en dessous. Ce qui arrive quand même pas mal dans les startups françaises et notamment dans les licornes. Mais aussi, t'as une vraie compréhension de qu'est-ce que c'est entreprendre. Ça prend un peu de temps la première fois.
T'as tout fait tout seul là.
T'étais pour Videolabs, ouais. Et puis ouais. Après, au bout de, au bout peut-être un an, j'ai pris un comptable qui m'a dit ah ouais tiens on va faire ça. Il a vu mon fichier Excel de gestion qui est au centime près, qui a toujours été au centime près, fichier Excel de qui est une sorte de PNL, et puis il fait ah ouais ça c'est pas mal, etc. Puis il y a eu des petits ajustements. Et puis finalement il a fait les payes. Puis après évidemment les payes je les ai passées chez Payfit, mais voilà, c'est une vraie école de la vie, mais surtout en fait c'est des fois t'as l'impression d'être dans les 12 travaux d'Astérix pour aller récupérer le formulaire 38B quoi.
Et c'était quoi le plus dur dans cette période? C'était de trouver des clients, c'était de recruter, c'était l'admin?
Non, alors l'admin. Donc même si c'est galère, en fait moi je vois ça comme un jeu vidéo. En fait, t'as
c'est
un
bien
boss.
De voir comme ça, je le vois pas comme ça.
Mais si, il faut le voir comme ça. T'as un boss. Le boss, il s'appelle Ursaf. Et il est méchant. Et ton but, c'est de trouver le poste. Non mais tu vois, moi j'ai fait plein de jeux. Tu vois, des Siberia, des Myst, des Point and Click, etc. Myst. Et en fait, l'administration française, c'est la même chose. Tu vois, tu vas battre et tu trouves. C'est le puzzle quoi. Mais en fait, faut le prendre à la rigolade. Il faut le prendre de façon. Il y a des bonnes raisons. Il y a des mauvaises raisons qui font que c'est compliqué comme ça. Voilà. Donc l'admin, ça allait. Trouver des clients, en fait. Pas trop, parce qu'au début, en fait, on a des clients. En fait, très très vite, on atteint un plateau de 400 000 euros de chiffre d'affaires.
Okay.
En fait, il y a plusieurs plateaux. Il y a le plateau autour de 400 000 et puis il y a le plateau après vers 800 000. Ma difficulté, c'est en fait surtout de la trésorerie.
Okay.
Parce que évidemment, quand t'es une boîte où t'as pas d'investisseurs, en fait, tes problèmes de trésorerie, c'est ton stress tous les mois, quoi.
Je connais bien ça.
Surtout quand tu fais du service, t'as intérêt. Il faut que l'argent rentre, quoi. Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, me dire comment je paye les gens. Et des fois, c'est moi qui dois réinjecter mes thunes perso pour payer les gens. Ça, c'est vraiment pas
ça,
cool.
Ça, c'était à cause de délais de paiement client. C'est pour ça que je demandais s'il y avait un côté pas assez de clients et tout.
En fait, on faisait aussi du développement sur VLC. Donc, en fait, et puis, t'as plein de clients qui payent en retard. T'as plein de projets qui sont foireux ou te disent, tu vois, t'arrives, ils te disent, c'est 10 000 balles parce que toi, tu penses qu'il y a 10 jours ou 20 jours ou je sais pas combien. Et puis, en fait, tu te rends compte, c'est un projet de 6 mois. Ça, c'est vraiment. Des boîtes qui doivent Parce que en fait là, moi je enfin la ça ressemble plus à une PME en fait,
ouais, c'est
une
ça,
start-up, c'est-à-dire qu'en fait t'as
ouais, c'est la boîte de conseil enfin de service IT, enfin c'est le business model.
Alors c'est un peu plus compliqué parce qu'en fait de fait ce qu'on fait, c'est que le business model c'est business de boîte de service, mais ce qu'on fait, notre métier, c'est éditeur de logiciels.
Ah oui.
Puisque de fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait,
très modif très vite... à VLC.
Ah non, c'est même pas ça, c'est nous qui codons VLC. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ah. c'est... très vite, c'est 80% des développements de VLC qui bossent dans la boîte. Donc en fait, on a un métier d'éditeur de logiciels, d'un logiciel gratuit, sachant qu'il y a... il n'existe pas de business model B2C dans l'open source, puisque tous les business models dans l'open source, c'est du B2B. Donc, on a un métier d'éditeur de logiciels, on a toujours des trucs à faire sur VLC, mais d'un autre côté, et d'ailleurs les devs, c'est ce qu'il faut qu'ils fassent, mais d'un autre côté, il faut qu'on récupère de l'argent, parce qu'il faut quand même faire vivre la boîte. Donc, peut-être que 20-25% du temps des développeurs sert à être sur des clients.
À être sur des missions clients, donc du service pour le client.
Et donc 75%.
Mais 75%, c'est sur le produit qui n'est pas facturé de la même manière au client.
Qui n'est pas facturé du tout. Puisque c'est sur VLC.
Pas facturé du tout. Ah ouais, vous avez une boîte où effectivement, ah waouh.
Donc là, tu vois, t'es dans la. Enfin, tu vois, c'est.
C'est compliqué l'équilibre financier, ouais, ouais.
Ah bah, c'est l'enfer. Ouais. C'est littéralement.
C'est à la fois un asset produit qui vous amène des clients, une expertise, une unicité. Mais le cash flow, t'es pas payé en mode service à faire des projets à 100 000 euros de dev pur pour la personne, quoi. Parce que
c'est
toujours une partie qui va être, bah non, ça c'est des évolutions de VLC, du coup vous me les faites gratos et vous les réutiliserez pour d'autres clients, des choses comme ça, quoi. C'est ça un peu le truc.
Ouais, ou c'est juste que nous on veut développer
VLC
et on
trouve envie de.
C'est ça, en fait, exactement. Surtout nous. En fait, j'ai pas voulu faire une boîte de conseil, c'est-à-dire qu'en fait, sinon, en fait, j'aurais eu 100 développeurs. La moitié.
Ouais, c'est ça, ton objectif est pas de faire une boîte de conseil.
La moitié aurait été en régie chez Bouygues, SFR, France Télé, Lagardère, etc.
Je ne donne pas ce secret.
Il serait en train de faire, il serait en régie, je ne les verrais jamais, je prendrais des juniors que je paierais 40-45K, j'aurais 3 avant-ventes, etc.
Mes oreilles saignent, attention.
Mais tu sais que c'est comme ça. Et voilà, ils iraient faire.
C'était pas ce qu'il dit.
Ils iraient faire
ce genre de boîte, s'il vous plaît.
Ils iraient faire des players en JavaScript et des trucs absolument horribles qui sont des hacks de hacks parce que toutes ces boîtes là, en fait, mais tu vois bien comment c'est, tu le sais bien. Plus okay, okay.
Donc vous aviez une mission de boîte effectivement. Voilà, votre objectif à vous en tant que boîte, c'était de survivre en développant VLC.
Exactement. Donc c'est
possible.
C'est une boîte en fait stylé. Éditeur de logiciels de fait et d'accélération de VLC. Tout en ayant un business model qui est un business model de service. Après, on avait aussi quelques autres revenus de licence, de, ouais. Et un peu de publicité qui rentrait. Enfin, c'est un peu plus compliqué, quoi. En grosso modo, on avait et donc la moitié des fonds de la boîte, c'était des clients.
Vous avez essayé donc de ces modèles B2C, publicité ou de faire des choses parce
ouais,
que c'est
très,
pas les prix vraiment de
très compliqué.
De,
c'est très compliqué. Mais c'est même pas ça. Surtout, les gens lâchent pas leur carte de crédit. Hein.
C'est-à-dire les gens. Ah, vous avez essayé de faire de l'annonce sur VLC par exemple ?
Non, mais quand tu télécharges sur le site web de Videolan, en fait, t'as de la pub.
Ah oui, d'accord. Ok. Mais ça, c'est. Ouais, vous avez du gros trafic. Quoi. Je me rends pas compte des volumes. Mais
ouais, c'est du gros trafic quand même.
Ouais, c'est du gros trafic. Et ça se monétisait un petit peu. C'est une
ça monétisait un petit peu, ouais.
Un petit peu. Okay.
Mais un petit peu.
Un petit peu, ouais. Vous êtes pas non plus un média, quoi.
Ouais, surtout, on l'a jamais cherché à l'être.
Ouais, bien sûr.
Ça m'intéresse pas. Quoi.
Autre,
de la même façon que faire une boîte vraiment de pur conseil et de SN, ça ne m'intéressait pas. Ouais, je dis pas que c'est pas des bons business. Ça n'est pas du tout ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire de la vraie tech, vraiment ce que je t'appelle de la haute joaillerie. On écrit du C, on écrit de l'assembleur, on fait les choses bien. C'est long, c'est compliqué. Mais donc, ouais, donc là, il y a un vrai problème de business model et c'est compliqué. Et c'est un compliqué la trésor. Surtout quand tu travailles avec des gens à l'étranger, qui eux, enfin, tu, Microsoft, qui te payent à 3 mois, 6 mois, c'est pas leur problème. Toi, eh merde, comment je vais payer les gens ? Donc voilà, donc ça c'est un peu la... C'est pas mal la galère. Intéressant. Très cool.
Niveau recrutement et équipe,
aucun
problème. T'avais déjà de l'expérience de toute façon. Enfin,
pas du tout.
Gérer une communauté d'open source.
Ouais, voilà, c'est ça. En fait,
c'est sentir les gens.
On fait des gens... Enfin, tu vois, c'est de la croissance... organique, logique.
En France ou en remote?
Principalement en France, mais beaucoup en remote.
Ouais, ok. Déjà, ouais.
Okay. En fait, VLC, ça a toujours été en remote.
Ouais, ça a toujours été.
Nous, on a travaillé sur VLC, on parlait par mailing list et on discutait sur IRC, hein, c'est Slack pour les vieux. Mais en fait, enfin, tu vois, d'ailleurs, le moment où on a eu le Covid pour Videolabs, la question, c'était qui a besoin de passer au bureau pour avoir un deuxième écran. C'était ça la question. D'ailleurs, il y a eu zéro interruption. il y avait même pas de questions, quoi.
Côté prospection commerciale, du coup, tu l'activais un peu, t'avais un partenaire en plus, toi qui gérais, enfin, t'avais un des choses de cofondateur ou?
Non. J'ai démarré ça avec j'ai eu deux premiers employés, notamment un pote qui s'appelle Ludovic Fauvet, qui a fait énormément, mais non, très tech. Et en fait, il y avait des clients qui venaient, on cherchait un petit peu, voilà, c'est de la croissance organique.
Ok.
En 2000, que je te dise pas de bêtises, en 2018, j'ai recruté un CEO qui était un centralien, qui était un ami, qui avait géré, qui était chef du projet Videolan avant moi. Donc lui qui a fini Central, qui est rentré à Central en 2001 et qui est devenu CEO de la boîte pour que je puisse faire un petit peu autre chose, et notamment à côté j'ai monté deux autres boîtes sur de l'open source.
Toujours sur l'open source. Okay.
Une qui s'appelle FF Labs, qui fait des trucs autour d'FFmpeg, et une autre autour d'un logiciel qui s'appelle X264, qui est un encodeur vidéo. Donc j'ai créé une autre boîte. J'ai créé une boîte en Allemagne.
Donc juste pour comprendre, FFmpeg, c'est un
server side encodage vidéo.
Voilà, c'est quelque chose qui permet de convertir des vidéos. Disons le cas d'usage simple, c'est passer d'un MP4 à un AVI de manière assez rapide. Ça, c'est une techno open source, mais très compliquée à manipuler. Et donc t'as reproduit le même modèle en fait que tu avais pour VLC.
Exactement.
Avec une boîte privée à côté qui est spécialisée dans cette techno pour l'exploiter pour différents clients, etc.
Donc, voilà.
Avec aussi cette vision de contribuer au maximum à FFmpeg ou là plus
complètement même.
Exactement le même réponse.
Même modèle. Et okay. Donc voilà, j'ai créé une autre boîte en Allemagne qui est une filiale parce que j'avais trois personnes à employer en Allemagne. J'ai créé une autre boîte sur X264. En grosso modo, voilà, donc autour de ça.
Ouais, ça pourrait être dans Videolabs presque. C'est presque la même activité.
En
ou
tout,
non,
j'ai cinq.
Séparé, en fait,
en tout, sur tout ce truc-là, maintenant, il y a cinq entreprises.
Et pourquoi les séparer?
Alors, un, pour séparer le risque. C'est-à-dire que s'il y en a une qui se pète la gueule, qu'elle fasse pas tomber les autres.
OK.
Premièrement. Deuxièmement, parce que j'avais des clients un peu gros et un peu relous qui voulaient pas, par exemple, Google voulait donner que FFmpeg, voulait pas que l'argent puisse être réutilisé sur VLC.
Voilà. D'accord.
Voilà. Okay,
je vois. Ah oui,
Et il y en a une que j'ai créée parce que j'avais un très très gros contrat qui arrivait. Et en fait, par contre, avec une boîte américaine que je pourrais pas citer, mais les liabilities étaient à l'américaine, donc jusqu'à 10 millions de liabilities si jamais.
Le projet se plantait.
Exactement. Donc là, moi, j'ai créé une boîte ad hoc, quoi.
Ah oui.
Bah ouais, je veux bien signer, hein. Ouais. C'est quoi mon risque? Au pire, la boîte, tu vois, la valeur, elle est à 1000 euros, qui est le capital social, enfin, tu vois.
Ouais, ça a l'air galère, ça, comme moment.
En fait, et puis ensuite, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, évidemment, toutes ces boîtes, c'est ce que tu pourrais l'appeler le groupe Videolabs,
ouais,
hein.
C'est ça, ouais.
Toutes ces boîtes, donc ces cinq boîtes, en fait, souvent, en fait, j'ai des projets qui sont à la fois clients et à la fois serveurs. Et donc, c'est un peu de VLC, un peu d'FFmpeg. Donc, en fait, ça dépend de là où t'es. Mais par exemple, tu vois, par exemple, il y en a certaines où c'est VLC qui est supplier, Videolabs qui est supplier, et d'autres, c'est FF Labs qui est supplier. Parce que c'est comme ça que ça a été fait. Par exemple, chez Google, le supplier, c'est FF Labs. Donc, même s'il y a des trucs sur FF Labs à faire qui sont pour Videolabs, je facture sur FF Labs, je vais pas, parce que tous ces process dans les boîtes là, les acheteurs, c'est des gens qu'il faut brûler, quoi. C'est des gens, c'est insupportable, c'est incroyable, ces process de supply, mais c'est débile, enfin.
Ça de manière générique, ils visent personne.
Complètement, ils sont complètement visés, enfin arrête, c'est insupportable. Les mecs, ils te font, putain, et t'arrives sur des portails à la Ariba, là, le truc de SAP. Mais franchement, t'as envie de te suicider. C'est pire que l'administration française. Ils te demandent des papiers qui n'ont aucun sens.
C'est très générique, parce que c'était fait pour un type de boîte et après, ça s'applique à toutes les autres boîtes de manière différente.
C'est ça, en fait. C'est comme si tu t'étais là pour leur fournir des vis, des vis d'attachement de ton moteur. Et que si la vis, elle casse, bah, en fait, ta voiture, elle crache. Et donc, évidemment, dans ces cas-là, en fait, tu comprends qu'ils fassent attention, etc. Mais en même temps, là, tu donnes de la prestation intellectuelle, d'un logiciel ou finalement des journées de conseil, quoi, de consulting. Il n'y a pas besoin de tout ça. Et franchement, et tous ces portails. Et ensuite, en fait, c'est un mindset d'acheteur. Et franchement, mais c'est insupportable. Les mecs, ils te...
Enfin, boîte, l'enfer. C'est quoi votre panier moyen sur le type de contrat que vous visez, là? C'est des montants... plutôt des grosses missions, des longues, parce que les grosses missions, ils seraient encore plus compliqués, quoi.
Ouais, mais tu vois, par exemple, là, il a fallu que je change mon compte bancaire, tu vois, change mon compte bancaire pour Google, pour qu'ils nous payent. J'ai commencé en novembre, c'est toujours pas fait.
Change de banque?
Ouais. J'ai changé de banque,
tu vois. Ils acceptaient pas ta banque?
Non, mais moi, j'ai changé de banque. Parce qu'ils m'envoient sur une banque et je veux qu'ils envoient sur une autre banque, quoi. Tu vois, non, ça doit changer ton IBAN.
Ah oui, chez eux. Ah oui, chez eux. Pardon. Oui, c'est tout simple. C'est juste que, oui, tu changes ton IBAN chez eux pour qu'ils te facturent ailleurs. Ouais.
Pour qu'ils me payent ailleurs. 3 mois. J'ai toujours pas fini. C'est hallucinant. T'envoies des mails, t'as des trucs, des systèmes, etc. Ah oui, attends, pas du tout. Tu vas sur Ariba. Ariba, c'est vraiment la pire interface au monde.
Ouais, c'est vrai que les développeurs d'Ariba, si vous écoutez, vous êtes pas gentils avec nous.
Non, mais c'est, enfin, franchement, les gens comme ça, tu
SAP, non, c'est ça?
Ouais, bah, soit tu les butes, soit tu leur donnes tu les interdis ever de toucher un ordinateur. C'est inadmissible d'être aussi pourri à ce moment-là, quoi. Et ils en ont rien à foutre. Et ils t'expliquent que c'est normal. Et donc, voilà. Bref, donc, 3 mois après, avec, je sais pas, je pense que je suis bien à 250 mails, et j'ai toujours pas changé. Il faut remplir des formulaires, il faut refaire ton...
ça pourrait être payé pour avoir la trésor, pour... Enfin, c'est important, quoi.
Ouais, là, ça, ouais. Donc ça, c'est vraiment, vraiment galère de bosser avec de grosses boîtes, et en particulier parce que les acheteurs sont formés à ça et ils considèrent que c'est normal. Alors que l'achat de propriété intellectuelle, franchement, surtout de journée de conseil, ça devrait être hyper simple.
Parce que vous, votre type, c'est quand même des grosses boîtes. Donc Google travaille quand même avec vous sur des projets.
Je n'ai que des grosses boîtes.
Que des très grosses boîtes de la tech, quoi. Pas trop des scale-up ou juste comme ça. Parce qu'en fait, c'est plutôt des grosses boîtes qui traitent des gros flux vidéo qui vont avoir besoin de ce niveau d'expertise, ouais. Quoi, en gros.
Ouais, ouais. Okay. En fait, j'ai deux profils de clients et deux profils de mission. J'ai les profils à moins de 20 000 euros qui sont des petits trucs. Des petites boîtes un peu partout qui ont besoin de trucs un peu spécifiques, ouais, ça, et qu'on pas trouvé, voilà.
Qui valent en freelance, quoi.
Voilà. Avec des missions, ouais, bah, c'est ça, entre eux. Avec ça va de 3 000 euros à peut-être 40, quoi, ouais. Et avec un gros truc autour de 20 000. Et puis t'as des grosses missions qui sont grosso modo quasi du sponsoring à 150 à jusqu'à 300, ah ouais. Voilà, okay. Par contre je fais ça c'est rigolo parce que un jour je sais pas, en remplissant un énième formulaire de l'administration française, on me demande combien quel est votre chiffre d'affaires à l'export. Enfin voilà, est-ce que vous faites plus que 15%?
Ah ouais.
Alors je les regarde et je dis bah
100%.
Je dis bah ouais, je fais facilement plus de 50% à l'export. Mais en fait non. Enfin pour moi l'export c'était hors Union européenne. Non pas du tout.
T'es hors France.
En France. Et j'étais ah ouais, c'est ça que vous voulez? Ah bah 95%. Ouais. Et donc en fait ouais, il y a un moment où en fait j'ai quand même, enfin en fait pour moi c'est évident, quoi. J'ai pas un client qui parle. Enfin, si, est-ce que j'ai un client qui parle français? Genre, je suis même pas sûr, tu vois.
Ça concerne des boîtes tech. C'est
j'ai des clients en Corée.
On a loupé le segment. Peut-être que tu travailles pour Dailymotion. Je sais pas si c'est un sujet que tu veux aborder, mais.
Dailymotion, ça existe encore, Dailymotion?
Je savais qu'il fallait pas avoir des sujets. Ça existe encore, ouais.
Ils ont raté
la bataille, mais.
C'est pas eux qui ont raté la bataille. C'est cette espèce de fou dingue de Arnaud Montebourg qui a interdit Dailymotion de vendre ça à Yahoo!
C'est inadmissible.
Ça a été probablement la pire chose ever. Heureusement qu'après on a réussi à lancer la French Tech. Mais tu te rends compte, ça veut dire, ouais, on peut pas racheter des boîtes françaises sans que l'État intervienne. Ça va pas, non. Résultat, ben c'est un projet qui est mort. Il y a des gens très bons là-bas, mais c'est pas le problème. Ouais. Le projet.
Pour la petite histoire, le pitch historique de YouTube, le pitch de levée de fonds, il y avait marqué main competitor Dailymotion. Ils ont tant d'avance sur nous. Voilà.
Donc voilà, donc j'ai créé un peu des petites boîtes, et donc voilà, bah je suis un peu différent dans le sens que bah c'est des boîtes qui sont self bootstrap. Donc on n'est pas du tout dans ce que je vois notamment à Station F où je connais, et puis je suis advisor de pas mal de startups où en fait ils ont pas du tout ces problématiques. Et d'ailleurs en fait finalement ils ne comprennent, pour la plupart ils comprennent pas très bien leur business, parce que le business c'est lever de l'argent, se faire racheter. Et il n'y a pas une seule boîte dont le problématique, c'est un, de viser à être break-even, ou même des problématiques de trésorerie. Quand je raconte ça, les gens te regardent et disent « Ah, mais c'est pas possible. » Donc, ceci étant dit, c'est ça la vraie vie, en fait, les startups.
C'est la vraie vie, en vrai, de 80% des entrepreneurs qui sont pas à la Station F dans des trucs...
Mais même hors de la tech. C'est la problématique, ouais. Numéro un, c'est ton besoin de fonds de roulement et la trésorerie, etc.
Et donc, toi, là, sur ces 6 boîtes, tu fais encore de l'opérationnel du code ou tu es plus dans la gestion, le management, là, aujourd'hui?
Alors, zéro management.
Ok.
Voilà. Moi, en fait, ce que je fais, c'est que je donne une vision produit, une vision technique. Et puis, bah, je suis le dernier mec technique qui tranche.
Ok.
Donc, quand j'arrive sur des discussions, c'est hyper tech. C'est que vraiment, c'est un truc où.
D'accord.
Et j'ai des gens, notamment sur Videolabs, le CEO, c'est un mec qui est 10 fois meilleur que moi, en management et qui est vachement, enfin, j'ai des mecs qui sont vraiment excellents, quoi. Voilà. Donc voilà. Donc ça, c'est un peu ce que j'ai fait depuis, de fait, 2013, quoi.
Intéressant.
Tout ça. Et puis, en fait, j'ai eu un autre sujet qui m'est arrivé il y a 2 ans, qui a été, j'étais CTO de Shadow.
Alors, tu peux nous présenter Shadow?
Shadow, c'est cette boîte qui avait levé 120 millions d'euros, qui était dans le Next 40 à l'époque, qui te fait un PC de gamer dans le cloud.
Et donc, Shadow.tech.
C'est ça, Shadow.tech. Et donc, l'idée, en fait, c'était tu avais un ordi avec une grosse carte graphique qui était dispo en remote et qui te streamait la vidéo. Donc, tu pouvais jouer à distance sans avoir un ordinateur hyper puissant.
Ouais, parce que le problème des gamers aujourd'hui, si vous travaillez sur Mac, faut, par exemple, ou sur votre ordi de bureau, bah, il faut acheter un ordinateur dédié, une tour limite, qui prend de la place chez vous, qui coûte cher. Et au bout de 2 ans, elle sera obsolète pour jouer au dernier jeu. Donc, voilà. C'est ça un peu le pitch initial, c'est de dire bah nous on maintient des serveurs hyper des ordi hyper puissants dans le cloud. Tu te connectes, ça quand tu cliques bah ça clique avec une latence très très faible, donc tu tires bien au bon moment sur l'ennemi dans le jeu vidéo et ça te renvoie le flux vidéo en quasi instantané pour que tu puisses jouer même à des jeux à très très haute fréquence alors que c'est en fait tu contrôles un ordinateur à distance.
Exactement. Et donc il y a un vrai sujet vidéo et surtout. Ouais. La boîte allait pas bien, notamment pour des raisons. Il y avait une sorte de valse de fondateurs qui s'était fait sortir, mais aussi niveau tech, il y avait quand même beaucoup beaucoup de problèmes tech. Et donc on m'appelle en me disant est-ce que tu peux venir d'être CTO. Donc je dis bah ok, mais je peux pas être à 100%, même si mon part-time, enfin quand je vois le nombre d'heures que j'ai fait chez Shadow, j'étais à beaucoup plus que 100%. Hein, genre j'ai compté mes heures supplémentaires, j'étais à plus de 100%. Mais en tout cas officiellement dans mon contrat, ça l'était pas. Et donc là, je me rends compte qu'en fait il y a plein de gens qui sont hyper bons et surtout hyper passionnés, mais que
combien d'employés sur la partie
à l'époque 130 et sur la partie tech t'en avais 70 quoi à peu près.
Okay.
Et tu te rends compte qu'il y a beaucoup de gâchis. La boîte, personne ne se parle. Alors, au début, je crois que c'est à cause du Covid, mais en fait, c'était exprès. Tout était siloté.
Ah ouais.
Et des gens hyper attachants, mais un management totalement toxique. Le fondateur visionnaire était parti. Le deuxième fondateur était aux États-Unis, se battait avec le premier fondateur était parti. Il y avait eu 3 CEO en un, quoi. Donc c'était vraiment.
Et CTO, combien de.
Pas trop avant. Il y avait un Arnaud Lamy qui était le CTO avant moi, qui est parti en fait avec le premier fondateur.
Ah oui.
Marre. En fait, je pense qu'il s'est fait un peu piégé. Justement par les gens du top management qui étaient un peu toxiques.
Ok.
Donc à un moment il a dit ah, ça va, il est parti faire Powers avec Emmanuel Freund qui était le fondateur. Et donc surtout moi je à la VLC en fait je vais parler aux utilisateurs, je demande aux utilisateurs qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous regardez, qu'est-ce qui vous amuse, etc. Et donc et notamment ouais, ouais. Tout le monde dit ouais bah voilà on nous promet tous ces trucs là, c'est pas possible, personne le fait. Donc moi je dis bah
on va les faire.
Exactement. J'ai dit, bah écoutez, donnez-moi les 3 features les plus importantes et donnez-moi jusqu'à... Donc c'était en septembre. Donnez-moi jusqu'à décembre et vous les aurez. Notamment, il y a un truc qui s'appelait le double écran, qui était un vieux serpent de mer qui datait depuis... je vais te dire, ouais, quasi Mathusalem.
Dans la boîte où tu parles en général.
Ouais, en fait, le fondateur l'avait présenté en 2016, tu vois.
Ah oui, pour
le. Et là, on était en 2020, c'est 2021, ah oui. C'était toujours pas shippé. Donc, voilà. Et donc, sauf que moi, les sujets techniques, je les connaissais bien.
Alors, attends, parce que c'est assez intéressant, parce que t'as dit, une approche client, je vais toujours parler aux gens et tout. Donc, ça, déjà, dans VLC, t'avais une très forte approche
C'est un produit B2C, VLC.
Ouais, donc, pour que ça marche, il faut être très proche d'eux, comprendre ce qu'ils veulent.
Ah, la croissance de VLC, même si toi, plein des geeks de VLC s'en rendent pas compte, c'est le travail que j'ai fait de reach à la communauté.
Ah.
J'ai énormément passé de temps sur les forums de Videolan à apprendre et à écouter, à répondre, etc.
Ça, tu l'as fait instinctivement, de toute façon.
Bah, c'est nécessaire, en fait.
C'est nécessaire.
Et donc, voilà. Donc, je fais ça un petit peu. Et
pas de chief of product, du coup. Tu prends un peu le rôle du chief of product, du coup, là, dans la boîte. Parce que si tu fais
pas
ça,
dans Shadow.
Pas dans Shadow, là, c'est.
Non, parce qu'il y a un CPO à l'époque qui est aux États-Unis, qui lui fait plus du produit strat. Vraiment, et qui est probablement un des meilleurs CPO que j'ai jamais vu. D'ailleurs, probablement un des meilleurs dirigeants de boîte tech que j'ai jamais vu.
Ok.
Un mec qui s'appelle.
C'est quoi la différence entre produit strat et toi, du coup, ce que tu faisais? C'était plus?
moi je dirais des roadmaps quoi.
Ouais, ok.
C'est du release management.
Des features et tout. Lui c'était en plus où est-ce que, où doit, quoi doit servir le produit, quoi.
Là moi c'est des problèmes techniques, c'est-à-dire c'est quoi les features. Les features qu'on m'a demandé c'était le double écran, la VR, le 4x4 et le Chromebook, tu vois. C'est vraiment de la pure tech. Donc voilà, donc c'est ce que je fais. Et puis en fait très vite la boîte, en fait ils sont en train d'essayer de faire une levée de fonds et c'est n'importe quoi cette levée de fonds. Ils avaient déjà levé 120 millions, ils cherchaient à faire 300 millions, à lever 300 millions pour être break-even, ça n'avait aucun sens. Et donc ce qui aurait dû se passer, c'est-à-dire que bah la boîte se crache. Est-ce que c'était est-ce que tous les fondateurs ont fait le bon travail pour éviter que ça se crache? J'en suis pas sûr. Est-ce que tout le management a fait? J'en suis pas sûr. Bref, on va arriver devant le tribunal et donc là il y a finalement, on sait qu'il y a Octave Klaba d'OVH qui va se positionner, mais j'entends rien d'autre. Et en fait moi j'aime bien cette boîte et je trouve que la vision d'Octave elle est pas incroyable, mais surtout je veux qu'il y ait un peu de compétition.
Une compétition bien sûr pour le,
et le boîte, rachat de boîtes en fait qui vont au tribunal de commerce. C'est un système un peu au poker où en fait faut mettre un jeton pour voir, tu sais,
comment ça fonctionne.
En fait tu déposes, donc c'est publié, tu déposes une offre au prix du tribunal de commerce et ensuite tu peux au deuxième tour surenchérir sur l'offre et ensuite la présenter au tribunal.
Donc Octave Klaba, fondateur d'OVH, c'est ça?
Tout à fait.
Dirigeant, lui, c'est lui qui doit faire une première offre pour...
tout le monde fait une offre en même temps, en fait.
Ouais, tout le monde fait une offre en même temps.
Voilà.
Et ensuite, il est tout seul, il n'y a que lui qui...
Voilà, exactement. Et moi, et notamment, le problème, c'est que la personne qui est tout seul, en fait, elle... tu vois, si elle est tout seule et qu'elle dit, je reprends que 20% des gens, elle reprend que 20% des gens.
Ouais.
Et en fait, j'avais quand même beaucoup de gens que j'aimais bien, donc voilà. Et donc, je voulais un peu de compétition sur le rachat, et donc j'ai un peu dit aux gens j'ai envoyé le dossier à Scaleway, de Xavier Niel que je connaissais, un petit peu, enfin, très mal, hein, mais que je connaissais un peu.
Cloud de Xavier Niel.
Et puis finalement, je décide de monter une offre moi-même. Et donc en 10 jours, on pose une offre et donc j'ai créé, alors que normalement c'est des trucs qui se travaillent sur des mois et des mois, en 10 jours en fait, on a créé une offre de rachat vraiment 10 jours hein, et on la dépose et puis on est trois autres développeurs, je pense qu'on en discute alors que je devais être en remote parce que c'était le deuxième confinement ou je sais pas quoi, et avec principalement deux gars tous les soirs en fait je les écoutais sur Discord jouer à LOL et puis un soir je leur dis au fait pourquoi nous on dépose pas une offre, voilà, et c'était 10 jours avant la deadline. Donc là on a monté un dossier alors que c'est un dossier très très compliqué.
Et t'as pas besoin d'avoir une preuve de financement
si.
Ah, il fallait intégrer ça,
ouais.
Mais en fait c'est ton Video Labs,
c'est ton premier tour, tu poses ce que tu veux.
D'accord.
Donc je vais avoir 30 000 euros sur mes comptes sur Video Labs, je dis je fais une offre à 30 000 euros. Point.
Ah ok, d'accord, ok.
Voilà. Et donc ensuite, là arrive le truc. Et donc là, ça a été trois ou quatre semaines absolument délirantes où on lève avec. Donc finalement, on est trois. Finalement, on se retrouve à six et on lève. Et donc là, on explose le business plan et le business model et on redéveloppe le business model. Chose qui n'avait jamais été bien fait pour la boîte. Et donc on arrive avec un business plan où grosso modo, il nous faut 8 millions et pas du tout 300 millions pour arriver en break even. Et on change un petit peu. Enfin, comme on est tech, en fait, on sait ce qu'il faut faire pour, parce qu'en fait, il y a plein de décisions qui n'avaient aucun sens. Mais comme nous, on est très tech, et principalement, notamment, on réduit énormément la partie managériale.
Ok.
En simplifiant. Ouais,
donc hyper intéressant comme exercice. Là, vous proposez un contre-plan d'action financier, BP, vision un peu produit, roadmap de développement, tout ça en 10 jours.
Okay. C'est ça. Et puis ensuite, on a 3 semaines. Et en 3 semaines, en fait, on
lève. Sans dire aux autres, je suis un peu en sous-marin.
Je fais l'erreur de le dire au secrétaire, au troisième fondateur qui est le secrétaire général. Et donc, lui, il va prévenir Octave avant la deadline, ce qui prouve que c'était, ce qui est complètement illégal hein, d'ailleurs de faire ça. Mais bon, tout ce qui se passe autour des rachats de boîtes au tribunal de commerce, c'est de l'arnaque, quoi. C'est de la corruption totale. Tout le monde s'entend.
Ça va être très compliqué.
Il y a beaucoup de choses qui se passent derrière. C'est un endroit qui est vraiment corrompu, hein, faut le savoir. C'est un des derniers endroits qui est vraiment corrompu en France. Alors ils vont dire mais pas du tout. Mais tu te rends compte quand même que les mecs qui sont les présidents des tribunaux de commerce, etc. Et tous ces juges-là, soi-disant, ils sont bénévoles. Ils font ça juste pour la beauté du geste parce que c'est des anciens entrepreneurs. On me l'a arrêté de me prendre pour des débiles. me prenez pas. Enfin, ça n'est
pour avoir un accès au deal dessus.
Je sais pas, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans les coulisses qu'on n'est pas au courant. Bref, et donc Et donc là, en fait, nous, on lève de l'argent. On lève 35 millions en 3 semaines pour ce sujet, avec un mec absolument hallucinant qui s'appelle Fergus, qui nous fait ça.
Donc le VC du coup, VC ou private
VC, equity, Beta, business angel, etc.
Ah ouais.
Et là, il y a un business angel qui s'appelle Jacques-Antoine Grandjean, Jag, de VP, de vente privée.
Bien sûr.
Qui vous trouve le truc. Et là, on a le CTO de VP, Julien Mangeard, qui vient, qui audite le truc, qui dit c'est génial. Et donc là, qui va quand même dire à Xavier Niel, franchement, c'est cool, va les voir. Et donc là, je vais voir Xavier, parce que lui, il a donc fait son offre à travers Scaleway, enfin, en tout cas, les gens de Scaleway ont fait son offre. Et donc, je viens lui expliquer, il me dit, ouais, il y a une heure, et il me dit, non, mais franchement, moi, le dossier Shadow, je l'ai vu passer plein de fois, ça m'intéresse pas, c'est vraiment trop relou, etc. Il y a trop de choses cheloues. Et donc là, je lui dis, mais en fait, d'abord, les chiffres que t'as, ils sont pas complètement exacts, parce qu'en fait, c'est des on-dit, etc. Et moi, je suis dans la boîte, donc je sais pas comment. Et donc, je lui présente notre plan, et le meeting de une heure passe à deux, puis trois, puis quatre, puis cinq. Et je dis que j'ai fait un MBA en quatre heures, tu vois. Parce que je me suis pris une leçon de business par Xavier Niel. Ce mec est absolument hors gabarit, quoi. Absolument génial. Et là, putain, je suis sorti de ce meeting complètement vidé, mais on avait reconstruit un plan, c'était pas exactement le nôtre, notamment financièrement, et il dit, bah grosso modo, et puis surtout lui, il me dit, bah voilà, on y va, on prend votre idée, les employés, par contre, c'est mon argent, et c'est Iliad, arrêtez avec vos investisseurs, voilà.
Et donc, mais il vous intègre dans les, enfin, il reprend votre plan d'action pour l'offre Scaleway en gros.
Exactement. C'est exactement ce qui se passe. Donc nous, on arrête notre offre et c'est Scaleway qui pose son offre finale. On a bossé jusqu'à minuit et demi. Enfin, toi, le dernier jour, Et donc là, j'ai eu, vraiment. Alors, par contre, l'artillerie lourde de monter un rachat de boîte, ce qui est un sujet qui est hyper intéressant, hein, la reprise d'entreprise.
Et t'avais pas fait de levée de fonds, en fait, dans ta carrière avant, en fait, directement.
Non.
Donc là, c'était un MBA accéléré sur beaucoup de
points. Cool. Absolument, puis surtout avec de l'argent, etc.
Ouais, en plus, c'est un vrai projet, un vrai truc. Et tu parles pas dans le vent, quoi.
Toi, t'es chiffre, c'est en milliers d'euros, tu sais. Génial, hein. On travaille avec la direction financière d'Iliad. Et voilà, donc c'est deux mois complètement fous. J'ai fini et j'étais rincé. Et puis à la fin, c'est Xavier qui va au tribunal pitcher le truc avec moi, quoi. Donc voilà, donc ça c'est super bien, super intéressant. Et finalement on perd. La raison principale, c'est qu'en fait nous on met 4 millions sur la table et finalement Octave en met 5. Et celui qui est l'administrateur judiciaire, il récupère un pourcentage du deal.
Quoi ?
Ouais. Donc en fait, lui, il a qu'un seul but, c'est de faire, d'avoir les chiffres les plus élevés, quoi. Et pas forcément la meilleure offre. Pour les employés.
Je suis pas particulièrement familier de ce système, mais c'est vrai que ça a l'air bizarre évoqué comme ça.
C'est normal. C'est normal.
En fait, côté vraiment basique de. En fait, il faut de l'argent pour survivre.
Il y a des côtés logiques en fait d'administration, l'administrateur judiciaire. Mais en fait, tous les mecs des administrations judiciaires connaissent tous les avocats qui sont là, qui connaissent tous les tribunaux, les directeurs de tribunaux de commerce. Enfin, c'est.
Faut connaître quoi.
Ouais, ils se connaissent tous. C'est là où en fait en tout cas moi je suis passé complètement à côté du truc parce que et puis surtout on était beaucoup trop à l'arrache, mais ça s'est vraiment joué à pas grand chose.
Trop bien. Du coup vous l'avez pas fait et du coup maintenant donc Shadow était repris par OVH et
voilà, donc
toi t'es sorti.
Donc moi j'étais sorti puisque Octave était vexé en fait que j'ai fait une offre et comme le secrétaire général avait donné la veille de l'offre, en fait, ce que tu fais, c'est que tu reprends un certain nombre de postes. Et donc, il a dit, j'ai pas besoin de CTO. Donc, Shadow a toujours pas de CTO aujourd'hui. Puisqu'en fait, ils ont pas le droit.
C'est ça l'historique de la boîte, c'est de dire, il y a plus besoin de CTO, donc
j'ai pas besoin de JB. C'est débile. Évidemment, c'est débile.
Ça, c'est drôle d'avoir cette marque. Finalement, tu auras ta marque à vie dans la boîte, puisque tout le monde posera la question, mais c'est qui le CTO?
Alors, ils ont 2 ans. Réponse, en fait, ils ont 2 ans. Au bout de 2 ans, ils vont pouvoir avoir un CTO. Mais ça n'a aucun sens. Le résultat aujourd'hui, la gestion interne de la boîte, elle est vraiment bizarre parce qu'ils ont des directeurs techniques qui font acting as CEO.
Enfin, bien sûr, mais c'est juste une question de titre.
C'est vraiment.
Je pense qu'ils vont. Et on se débrouille.
Voilà, donc ça, c'était okay. un vrai sujet rigolo. Et puis, depuis, j'ai relancé une autre boîte qui travaille sur les clips vidéo, qui s'appelle eShot, donc la monétisation de des petites séquences vidéo pour les réseaux sociaux, pour faire des NFT, pour faire plein d'autres choses, tout ce qui est asset management.
C'est product, et enfin, il y a un vrai product là, mais B2C ouais. toujours, en fait, hein, comme tu avais fait ce
Non, plutôt c'est... B2B, là. C'est plutôt B2B, c'est qu'en fait, c'est du B2B2C, c'est des solutions vidéo un peu compliquées ou un peu crypto un peu compliquées au service des broadcasters, au service de
d'accord, voilà, streamer, ah oui, pour, ok, d'accord.
Voilà, donc c'est un des sujets un peu différents, bon, sur pas mal de produits. La boîte, elle a un an, donc même pas un an.
Tu as lancé tout seul là-dessus,
c'est non, justement avec Fergus, et qui avait été celui qui avait fait la levée.
D'accord.
Et puis je suis toujours advisor de plusieurs startups dernièrement, dont certaines qui sont vraiment cool, notamment une qui s'appelle Resilient, qui fait de la gestion d'IT, de d'ordi pour IT pour les PME. C'est assez rigolo, enfin, c'est pas rigolo, c'est je sens que tu vois, c'est un des pains, tu vois, t'es encore pas mal de pains quand
c'est,
tu crées
c'est
les
qui
boîtes.
Le j'ai des amis qui ont monté une boîte qui a le même pitch, donc peut-être c'est des compétiteurs.
Ouais, peut-être ils sont en Espagne, ils s'appellent Resilient.
Ah, c'est en Espagne, non, mais c'est les. C'est
et en fait, c'est important de gérer en fait ce qu'on appelle du MDM aujourd'hui, en fait, vraiment ce qu'on appelle de l'IT management, de l'IT asset management, c'est vrai vraiment à l'ancienne. Ouais. Et donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de marchés entre les TPE, les PME, les.
C'est un marché assez ancien qui a jamais vraiment été disrupté, comme on dit dans le
terme moderne,
ils sont restés sur leur
manière
de faire.
Aujourd'hui, maintenant, quand tu veux créer une boîte, en fait, apparemment, c'est ce que je dis, hein. Des statuts, soit tu payes les gastarts, soit tu récupères. Le mieux, c'est quand même de récupérer les statuts d'une boîte d'un pote. Hein. En vrai, parce que c'est toujours la même chose. Non, mais déjà, c'est toujours la même chose. Donc tu fais tes statuts. Ensuite, tu te logs. Tu fais ton compto qui fait la création de SAS.
Banque, bien sûr.
Ok, tu passes sur Infogreffe. C'est la partie painful, mais que c'est quand même beaucoup plus facile qu'avant. Ça se balance. Une fois que t'as ton compto, tu cliques, t'as ton PFIT, tu vas sur PFIT, ça fait tout pour toi. T'as ta mutuelle, ouais, tu cliques, t'as Alan. Si t'as besoin de tickets resto, ouais, tu fais ton Swile. En fait, toute cette partie un peu gestion d'entreprise, moi j'utilise Udoo pour un peu la partie facturation, mais il y a plein de sociétés qui gèrent un peu tout ça pour créer de la facture, etc. Voilà, vraiment, aujourd'hui cette partie, elle est un peu réglée. La gestion des machines, des téléphones, des ordis, notamment quand t'es plus que... Ouais, jusqu'à 20, 30, ça va. Quand tu passes au-dessus, t'as 50, 100 personnes. Évidemment, c'est la galère. Ça veut dire que tous les... Même si tu renouvelles un ordinateur tous les 2 ans, en fait, si t'as 100 personnes, ça veut dire qu'en fait, chaque semaine, t'as un nouvel ordi acheté. T'as des ordis qui se font voler, des téléphones qui marchent plus, etc. Donc toute cette partie, elle est un peu chiante. Je vois quand même
externalisé aujourd'hui, mais
ouais, mais c'est des solutions qui sont vraiment à l'ancienne.
Voilà, c'est à l'ancienne. C'est pas la fluidité que t'attends.
C'est pas la fluidité. Et puis voilà. Et puis après, les en général, ce que je vois, c'est quand même les startups, elles utilisent Google Gmail plus la suite Google. Ça marche assez bien. Et c'est vrai que par contre, la gestion. Voilà, pour moi, là encore, les deux gros peines qui sont pas réglés, c'est toute la compta. Il y a vraiment pas de startups qui font de la compta bien. Il y avait une boîte
Clémentine, il y avait plein de gens qui se lancent là-dessus, mais
ouais, mais tu vois, les UI, c'est encore, enfin, c'est vraiment
nul. C'est l'UI et pas,
et il y avait une boîte dont j'ai oublié le nom qui va me revenir qui voulait faire de la compta pour toi, et finalement ils font juste le soft de compta pour les comptables. Ah, ça me reviendra. Penny Lane, peut-être.
Ouais, Penny Lane.
Et en fait, avant, Penny Lane, là, mais... c'était vraiment la vision.
Mais c'est aussi pour toi, tu peux l'utiliser en perso.
Ouais, mais maintenant, enfin, surtout l'objectif, c'est qu'ils travaillent avec des cabinets comptables, ouais, parce qu'en fait, sinon, t'as besoin de support, beaucoup de support, en fait. Et pour moi, ce côté-là, il est quand même encore, on n'y est pas encore, quoi.
Trop cool. eShot Labs, tu veux nous en parler un petit peu sur le début du projet, d'où ça vient, comment t'as trouvé le pain point,
En fait,
aujourd'hui, vous avez levé des fonds.
On a levé des fonds. Le pain, en fait, c'est que aujourd'hui, en fait, même pour des broadcasters, des gens qui soient des streamers, en fait, des gens qui font du live. En fait, après, à côté du live, il doit faire beaucoup de choses. C'est multi-réseaux sociaux, c'est multi-plateformes. Et puis surtout, les gens, en fait, aujourd'hui, en fait, tu compites avec les 3 heures de divertissement que les gens ont par jour. Et donc, en fait, les gens, enfin, TF1, ils fight Twitch, ils fight Steam, et ils fight wow.
YouTube.
Et oui, YouTube. Donc, en fait, il y a beaucoup de travail sur faire vivre ta communauté. Et un des trucs un peu cool, c'est d'envoyer du contenu exclusif, tu vois. Donc il y a beaucoup de sujets de contenu exclusif à utiliser, repartage dans d'autres réseaux sociaux, un peu d'engagement, un peu de récupérer des. Il y a une vraie problématique, notamment de faire ça automatiquement, parce qu'aujourd'hui ils font le découpage vidéo à la main. Donc il y a un vrai sujet de montage vidéo automatisé, qui est un des trucs qu'on fait. C'est vraiment du.
D'accord. Votre solution est déjà sortie là ou pas encore?
Ouais. Ça dépend. On a des bêtas avec certains clients.
Ok, donc c'est toujours en itération. Ok. Donc si vous êtes créateur, c'est ça que tu cherches des créateurs, ça. Si vous
êtes créateur, le moment, en fait, on cherche surtout des gens qui sont un peu plus, qui sont assez gros pour. C'est plutôt du B2B en ce moment. Donc c'est plutôt des chaînes de télé, des petites chaînes de télé, des producteurs de contenu.
Ok. Et là, t'es cofondateur, pas que technique.
Si, je suis CTO.
Hein. CTO toujours.
Ouais. Okay.
Mais t'as quand même toujours été très impliqué dans la strat et l'aspect utilisateur, quoi, ce truc-là.
Ouais, toujours. C'est un peu mon. Moi, ce que je fais, enfin, ma marque de fabrique, c'est des choses où c'est très technique. Je suis très direct. J'ai toujours été. D'ailleurs, c'est pour ça, en fait, que j'interviens dans pas mal de. D'ailleurs, Shadow, en fait, j'avais fait un audit technique pour les investisseurs, tu vois. C'est comme ça que j'étais rentré 2 ans avant. Mmh. C'est comme ça que le fondateur me connaissait. Je fais pas mal d'audits de start-up. Notamment pour des investisseurs. Je fais pas mal de, tu vois, j'ai un peu aidé vente privée en tant que consultant pour aider à leur strat technique. Parce que vraiment, moi, je suis dans le très direct, très clair, très technique. Et ouais, j'ai quand même une fibre utilisateur. C'est-à-dire, s'occuper d'utilisateur. Et ça, t'as pas assez en France.
Ouais, je suis d'accord.
T'as pas assez en France,
en particulier. Combo très tech et très technique et très utilisateur. C'est
top. Ouais, c'est ça. Et puis surtout, en fait, c'est la discussion qu'on a un peu évité sur le produit. C'est que aujourd'hui, beaucoup trop de gens qui font du produit, c'est des release managers, c'est de la gestion de tickets, quoi. C'est-à-dire vraiment, c'est bien fait.
Tous ces trucs-là.
D'abord, déjà, il y en a, ils sont quasiment scrum master au lieu de faire du produit. Ouais, mais c'est beaucoup. Quand c'est bien fait, hein, je définis mes personas, je définis mes user stories, je définis mon UX et à la fin, je définis mon UI. Ok, mais en fait, c'est beaucoup de l'exécution. C'est un produit, être dans le produit, attention, hein, c'est quelque chose qui est très difficile. Déjà, c'est ça, bien. De le faire bien, c'est très difficile. Mais en tout cas, la culture, elle est là-dessus. Parce qu'en fait, et en particulier, parce que beaucoup des boîtes de la French Tech, en fait, c'est des boîtes B2B. Non, tu regardes, tu prends les, je sais pas combien de licornes, 7 licornes.
C'est vrai qu'en fait, historiquement,
t'as la moitié des licornes, c'est des marketplaces. C'est des marketplaces, et l'autre moitié, c'est Alan, Payfit, etc. Soit c'est des boîtes très bien. Mais en fait, le sujet, c'est de faire signer tes clients qui sont des boîtes, parce qu'une fois que t'as fait signer tes clients, tu changes pas. Une fois que t'es sur Conto, tu vas pas bouger. Vous changez de banque, c'est compliqué. Ça prend beaucoup de temps. Donc, des gens qui sont vraiment au mode un peu à l'américaine, donc vraiment produit, vision produit, CPO, donc ce qu'on appelle normalement c'est ce qu'on appelle du marketing produit, hein. À l'origine, le marketing aujourd'hui en France c'est devenu de la com, mais normalement le marketing produit c'est vraiment comprendre quel est le pain point que tu vas résoudre pour les utilisateurs,
et la tech que tu mets en face
et ça c'est très très difficile, hein. Moi je suis très très mauvais là-dessus, enfin je me trouve très très mauvais là-dessus, je pense que je m'en suis c'est pas là, trop mal sorti sur VLC, mais c'est très très rare à trouver en France, et c'est dommage parce que justement je pense que il y a un manque de vision, et ça c'est vraiment un problème, c'est qu'il y a trop de startups, quand tu leur demandes ce qu'ils font, quand tu demandes qui ils sont, ils te répondent ce qu'ils font, c'est-à-dire que tu dis mais vous êtes quoi, c'est quoi la vision de votre boîte, et leur réponse c'est ah bah, nous on fait une solution qui. En fait non, la solution qui c'est peut-être un produit. Où est-ce que tu te places? Et ça en fait c'est une erreur qui est pas très grave parce que pour beaucoup de gens ça suffit, ça va le faire les gens, mais ils sont pas allés réfléchir à côté et donc ils sont pas assez gros, tu vois.
Par exemple, quand je vais faire des trucs gros, ça fonctionne pas comme ça.
Tu vois, je vois par exemple Conto, ils sont vraiment bons. Je trouve que c'est une des boîtes qui est la mieux là-dessus. C'est qu'en fait, ils sont arrivés en solution bancaire et en fait, très vite, ils sont arrivés à, enfin, tu vois, c'est un des axes d'expansion, c'est la pré-compta. Justement, un des trucs galères. C'est-à-dire que maintenant, tu vas quasiment envoyer toutes tes factures et bientôt, tu pourras émettre tes factures depuis Conto.
Ils ont déjà un premier module invoicing.
Ouais, alors.
Mais qui est pas.
Voilà, on est. Ouais, non. Non.
Ils l'ont mis
non.
dans la liste des features.
Ouais,
quoi.
Là, non. Ils l'ont pas encore, mais en particulier, tu peux envoyer tous tes trucs, il fait le matching et puis bientôt, ça va pouvoir gérer. En fait, tu vas dire à tes fournisseurs, envoyer ça sur Conto et Conto te dira bah voilà toutes ces factures en souffrance, est-ce que tu les payes quoi? On n'y est pas encore. En tout cas, ils ont bien compris ça. Donc là, il y a un vrai sujet. Mais ouais, beaucoup de startups et des licornes françaises, elles n'ont pas vraiment cette vision qui est difficile et que on enseigne assez peu parce que en particulier alors, souvent.
Pas, c'est tout le parti pris de notre boîte, c'est justement de recruter des anciens entrepreneurs qui ont un peu vécu ça pour de donner cette expertise d'ailleurs. Parce que dans les masters entrepreneurs, enfin, c'est toujours soit trop business et du coup,
alors voilà,
corrélé,
et ça c'est
trop
aujourd'hui,
tech
c'est
et...
ce qu'on voit, c'est que ouais, en fait, il y a beaucoup trop. Bah, alors d'abord, en particulier, c'est la faute des investisseurs français. Hein. Les investisseurs français, au bout de 5 minutes, quand tu leur as parlé, ils te disent, c'est quoi ton chiffre d'affaires dans 5 ans? La réponse, c'est évidemment 1 milliard.
Ouais, c'est
j'en sais rien, mec. Je te dis que je suis en train de lancer un projet. Arrête de me gonfler. Enfin, tu vois, voilà la vision. Arrête de me, voilà. Qui sont vraiment des calculateurs de fichiers Excel parce que, alors, il y en a
tu le fais. Tu le sors comme tout le monde et après.
Non, mais je peux te bullshiter n'importe quel projet qui fera 1 milliard. C'est pas très compliqué. Alors, ok, je ferai pas 1 milliard, je ferai 100 millions, mais en vrai, ça n'a. Et ça, c'est les mauvais VC. Et en France, en fait, normalement, c'est des... D'ailleurs, en fait, les VC en français, ça se disait des capitaux risques. En fait, ils prennent pas de risques. Mais les gars, ah non, mais je veux que vous fassiez du B2B parce que c'est moins risqué. Ok, bon.
C'est très B2B.
Alors que justement, un peu en Angleterre et pas mal aux États-Unis, enfin, énormément aux États-Unis, t'as des gens qui savent prendre du risque et du risque B2C qui est difficile. Mais quand ça gagne, en fait, ça fait des multiples incroyables.
C'est quoi la plus grosse galère que t'as rencontrée dans toute ton aventure, dans tout ton parcours? T'as raconté l'histoire de la reprise.
Ça, c'est assez fun. Sur VLC, c'est le moment où j'ai changé la licence du corps de VLC et j'ai dû contacter 300 personnes et que notamment, j'ai dû aller contacter des morts et donc j'ai dû aller contacter le père d'un développeur qui avait mis quelques lignes de code dans VLC pour changer la licence. Et donc, je me suis baladé pour aller l'attendre à l'usine pour aller lui expliquer ça. Ça, c'était, je me sentais pas hyper bien.
Ah ouais. D'accord. Ça, ouais, parce que les licences des produits open source, bah, c'est le. Si tu veux la changer, bah, tous les contributeurs, faut les informer et avoir leur accord.
En fait, la plupart des gens trichent, ils le font pas et ils disent que ça passe, mais moi, je fais pas les choses. Et sinon, ouais, les histoires de trésorerie où vraiment il y a des fois où je me demandais comment j'allais réussir à payer les gens pour que les développeurs s'en rendent pas compte. Et d'ailleurs, la plupart de la boîte, les gens de la boîte, ils se sont jamais posé cette question. Ouais. Alors, l'argent est toujours.
T'as jamais eu à virer quelqu'un sur les sorties?
Non. Mais sinon, en vrai, j'ai pas de galère, quoi. Bah, j'ai pas de galère.
Par coder des trucs
non, mais c'est pas...
très longs, et ça, c'est pas des galères. Ça, c'est...
Mais même tout ça, en fait, c'est ça, pas c'est des galères.
Ça, c'est le kiff de tout ça.
Enfin, en fait, moi, je suis assez. Mon but, c'est d'être pas trop stressé. Et comment je me déstresse, c'est de me dire, en fait, à chaque fois, c'est quoi ton risque? C'est quoi le pire qui peut m'arriver? Allez, vas-y, prends vraiment le pire qui m'arrive. Si tant que j'ai à peu près la santé, viens. Qu'est-ce qui peut se passer? Bah, au pire, je ferme toutes mes boîtes. Bon, bah, je ferme toutes mes boîtes. Qu'est-ce qui va se passer? Tous les gars, sauf peut-être un ou deux qui sont pas très tech, ils trouvent du boulot en combien de temps?
2 minutes.
Laisse tomber, 2 minutes. Hey. Puis même, enfin, tu vois, je pourrais même, imagine, même sur Videolabs, je dis, bah, j'arrête. Je passe un coup de téléphone, soit à Meta, soit à Netflix, soit, je sais pas, en disant, j'ai une équipe de tueurs de vidéos, vous la voulez?
Ils la prennent tout de suite.
Ils la prennent tout de suite, puis je ferme la boîte, tout le monde a un boulot, etc. Donc, puis moi, qu'est-ce qui va se passer? Je pense que je peux trouver du taf, tu vois. Je veux dire, c'est pas forcément...
Aborder l'entrepreneuriat de manière zen permet de...
Ouais.
En utilisant les risques, permet d'aller
bah, en fait, plus loin
et plus s'amuser, quoi. C'est comme ce que tu disais sur l'URSSAF, quoi. C'est un boss de jeux vidéo.
Non, mais c'est
voilà.
Stressant, mais sinon tu te fais un ulcère. Enfin, tu vois, quand je raconte mon parcours, les gens, la plupart des gens, ils auront un ulcère. Je l'ai pas, parce qu'à un moment, tu te dis, bah voilà. Imagine, j'ai plus rien. Qu'est-ce que je fais? Bah, je vais aller voir les grosses boîtes françaises. Je vais dire, vous cherchez un CTO, un assistant CTO. Je vais aller voir les boîtes du CAC 40 et mettre adjoint du EDSI. Peut-être que j'arriverai pas, mais je pense que quand même, globalement, il y en a bien une qui me dira, OK, JB, OK, viens voir, quoi. Donc,
cool.
Y a rien de très grave. Et en fait, ça, c'est important. C'est que, ouais, c'est galère. Ouais, alors par contre, ce qui est vrai, c'est que je travaille énormément. Mais genre, énormément. Mais en même temps, bon, bah, tu vois, il y a... Tu vois, je vais te dire, les trucs les plus galères et qui me gonflent le plus, c'est l'histoire de travaux dans ma maison, tu vois.
Ah ouais. Tu vois, c'est bien, c'est la bonne relativisation.
Ça, c'est des galères. Alors là, ça, vraiment, c'est les seules fois où j'ai vraiment eu envie de mettre mon poing dans le mur, quoi.
Et super, bah sur ce dernier conseil, ne faites pas ça, ne mettez pas votre poing dans le mur. Hein. Mais sur ce dernier conseil d'entrepreneur, merci beaucoup JB pour cet épisode et toutes ces aventures dans la tech française. Et on souhaite aussi bon courage à tous ceux qui voudraient se lancer dans l'open source.
Faites de l'open source, c'est bien.
Voilà, on l'a pas aussi dit, mais je pense que JB sera ravi de vous filer un petit coup de main si vous lancez là-dedans, parce qu'il n'y en a pas énorme en France, donc des beaux projets tech open source. C'est toujours bien. Merci JB.
Merci à toi.
Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Merci de le partager autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles avec un joli commentaire. Ça va énormément nous aider à faire connaître le podcast. Évidemment, si vous avez des besoins en accompagnement sur vos projets innovants, n'hésitez pas à contacter Start the Fuck Up, on saura s'occuper de vous. Il suffit de nous écrire sur contact@stfu.pro. Au nom de toute l'équipe, je vous dis à très bientôt.